communication se démarque un petit peu des précédentes, car il ne sera pas question de sexualité, même si vous avez aussi travaillé sur ces questions-là, et vous avez même publié un ouvrage sur les violences sexuelles. Mais voilà, votre communication s'inscrit directement dans la thématique politique du genre, donc de ce panel. Alors, au niveau des modalités, j'ai pas dit le titre de votre intervention, ce sera sur les effets des programmes internationaux sur les dynamiques de regroupement féminin dans la société burundaise après-guerre, au travers du cas de l'UNIFEM, ONU-Femmes. Alors, pour les modalités, trois communications, donc en fait, vous avez le droit à plus de temps que prévu, 20 minutes, mais vous pouvez prendre 15 minutes si... Voilà, si vous n'avez pas prévu 20 minutes. Ensuite, Anne Hugon, qui est maître de conférence à Paris 1 en histoire, au CEMAF, au Centre d'études des mondes africains, introduira la discussion. Anne Hugon est spécialiste des questions de santé et de reproduction au Ghana à l'époque coloniale. Et moi, j'enchaînerai, voilà, je vous apporterai aussi des axes de réflexion que mon, par rapport aux communications que vous nous aurez données, quelques questions et réflexions. Voilà, et j'espère qu'on pourra avoir 30-40 minutes d'échange avec vous ensuite autour de ces trois communications. Donc, on peut peut-être suivre tout simplement l'ordre qui était annoncé. Si jamais il y a des questions qui sont très ponctuelles sur les communications, autant les poser tout de suite après les communications et garder les questions transversales pour la fin, pour la discussion. Voilà, si ça vous convient. Je ne sais pas si Anne, tu as des choses à... Oui, d'accord. Très bien. Donc, on peut commencer avec la communication de Yelena Antic.
Merci de votre présentation. Donc, ma communication vise à aborder la condition de la femme algérienne à travers la scène de la danse dans les romans d'Assia Djebbar, Ombre Sultane et Vaste la prison. La danse trans féminine dans l'œuvre de Djebbar représente un élément important pour la démonstration du désir. Elle illustre des contraintes imposées à la femme algérienne, puisque la danse est susceptible de traduire le côté caché de l'éros féminin, ses désirs tenus, mais elle pourrait être observée en tant que vecteur libérateur. Autrement dit, la danse représente une sorte de catharsis féminine, voire une forme de sublimation du désir. Dans un premier temps, j'évoquerai la danse comme un élément folklorique de la culture algérienne. Ensuite, j'analyserai quelques fragments des romans d'Assia Djebbar, Ombre Sultane et Vaste la prison, qui décrivent la dimension imaginaire de la danse féminine. Nous nous intéresserons plus précisément à la représentation fictive de la danse, qui démontre à la fois la force libératrice de l'éros féminin et le chemin d'individuation de la femme algérienne. Dans la tradition arabo-musulmane, l'union conjugale est le seul lieu de la manifestation du désir sexuel légitime. Ainsi, d'autres moyens de donner libre cours à son éros sont considérés comme dangereux et hors normes. Dans l'œuvre d'Assia Djebbar, les personnages féminins explorent différents jeux afin d'assouvir leurs désirs. En tant qu'activité licite, la danse sert ainsi d'un masque, d'un jeu, d'un alibi de détente. En ce sens, la danse peut être examinée ici comme les multiples scénographies du désir féminin. Socialement acceptée comme légale et légitime, l'activité de la danse permet d'exprimer plus que les mouvements de la simple danse. En d'autres mots, d'aller chercher au-delà de la danse, ce qui est d'ailleurs l'objet de ce travail de recherche. Donc, ma communication s'attache à analyser les multiples enjeux de la danse. Le corps qui danse, comment peut-il dire l'inédit ? Et ces spasmes corporels, comment se traduisent-ils par les mots sur le plan stylistique et narratif chez Assia Djebbar ? Comment la danse silencieuse bascule-t-elle dans la danse trans, puis dans la danse révolte ? Donc, dans un premier temps, je vais parler de la polysémie de la danse féminine. La danse fait partie de l'éducation traditionnelle du paysage algérien. Elle accompagne les fêtes de mariage et les festivités régionales. En réalité, les cérémonies de la danse varient d'une région à l'autre par rapport aux costumes, aux particularités de la chorégraphie et de la mimique du corps. Le corps qui danse a un rôle avant tout social. Le corps reflète les spécificités d'un noyau collectif. Concernant plus précisément les danses féminines, elles ont une fonction sociale, c'est-à-dire la rencontre des femmes à travers la danse, mais également une fonction libératrice. À la différence de la tradition occidentale, dans laquelle la danse favorise la rencontre des sexes, en Algérie patriarcale, la danse s'inscrit dans les activités unisexes.
la danse typique des femmes algériennes et la danse kabyle. Liliane Lièvre le décrit comme style de danse individuel propre aux femmes berbères de Kabyle, pratiquées lors des fêtes familiales pour clore un cycle agraire, moisson, cueillette des olives, etc., très rarement en public. Le style kabyle est reconnaissable entre tous par la rapidité de son rythme et sa sensualité particulièrement évidente. Immanquablement, les prouesses de cet art sont associées à de bonnes aptitudes au plaisir sexuel. La danse dépeint la couleur locale du paysage algérien et s'inscrit dans les activités de l'ordre folklorique, mais aussi identitaire. Pierre Bourdieu remarque que la danse est faite de corps de femmes et de corps d'hommes, identifiés comme tels par leurs différences biologiques, mais surtout construits et mis en scène dans une dynamique continuelle d'adaptation et de résistance aux conditionnements sociaux. La danse des femmes algériennes se distingue par le caractère solitaire, qui renvoie de façon symbolique à une société érigée sur le repli du féminin sur soi-même. Cependant, la fonction du corps qui se distingue par la performativité et par le langage tacite ne se réduit pas à sa fonction sociale. La libération du corps, qui entraîne ses métamorphoses visuelles, mais également intellectuelles ou sémantiques, passera non plus seulement par l'habit, mais par l'identité sexuelle. Le corps de la danse porte les stigmates du monde qui s'affole, se révolte, se réjouit, se martyrise, se politise. La danse décrypte le temps présent, l'affirme Jean Pelletan. La danse traduit un pouvoir séducteur et mystérieux. En libérant ses désirs, le corps dansant fait preuve du corps intime. Ce dernier rend la façon de danser plus personnelle, bien que le corps dansant ne sort toujours pas du cercle des femmes spectatrices. La danse trans traditionnelle algérienne est représentée sous forme de débauche légitime qui apaise la douleur de tous les membres de la communauté conventionnelle condamnés au refoulement de la sexualité. Considérées comme licites, les danses permettent aux femmes et aux hommes de fuir dans l'obscénité et d'essayer de récompenser leurs désirs refoulés et réprimés par l'emprise de la tradition. Il en émane d'autres sortes de sublimation des fantasmes. Il existe tout un folklore sexuel, verbal et gestuel. Ces débordements favorisent le plein succès des réjouissances collectives. Donc le soutien Viviane Lièvre. Maintenant, je passe à l'illustration de la danse féminine dans l'univers fictif d'Assia Djebbar. Donc, la revenance du thème des danses trans féminines constitue un leitmotiv récurrent dans l'opus romanesque d'Assia Djebbar. En effet, la danse s'inscrit dans une cosmogonie des symboles féminins qui, malgré la reprise permanente d'un ouvrage à l'autre, à chaque fois se révèle enrichie de significations et d'une nouvelle couleur chez Djebbar. Ainsi, la portée de la danse s'amplifie. Elle traduit la voix des femmes d'autrefois, des femmes silencieuses, désireuses, comme d'ailleurs la voix des femmes crieuses. De plus, l'auteur attribue à la danse un pouvoir imaginaire extraordinaire. Ainsi, dans son roman « Ombre sultane », les femmes danseuses sont dotées d'un pouvoir surnaturel, telles les magiciennes. La narratrice en témoigne. La fillette se souvient des montagnes où surgissent les déesses. Pour moi, d'emblée, en princesse païenne, et se métamorphosait. Plus tard, bien plus tard, je l'ai retrouvée raidie de silence. La narratrice qui peut être identifiée à l'auteur ne cache pas la fascination suscitée par la beauté du décor de la danse féminine. Fillette, j'avais pour la première fois entrevu les danseuses. Tout d'un coup, je découvris les corps scintillants et mobiles, les foulards multicolores de trois années. Je m'oubliais fascinée par ce spectacle de la danse. Cette scène de la danse recèle le pouvoir érotique des danseuses. Les prunelles luisantes des paysans agglutinés en cercle ne quittent ni le ventre des danseuses ni leurs chevelures qui serpentent. Elles ne dorment pas même le jour. Avec le soleil, elles disparaissent, gitanes de quelle errance. Rappelons que les cheveux féminins sont qualifiés d'un potentiel mystérieux, érotique, dans la culture arabo-musulmane, si bien qu'il faut les cacher. Les regards des danseuses ont un pouvoir séducteur et même fatal pour les hommes. Ils suscitent la fitna, le désordre total, donc le danger féminin. Et se dessine ici l'idée de la femme dangereuse et son côté de la femme sorcière, exploitant le pouvoir des sorcelleries. L'auteur évoque la figure de la femme marcheuse, vagabonde, afin de faire l'allusion à la fois aux femmes andalouses du passé, aux femmes mortes dont les voix font écho de partout. Ces voix des femmes oubliées se mêlent à la mélodie d'une flûte triste qui annonce en quelque sorte la condition de la femme, sa douleur silencieuse. Sous les monts aux oliviers brûlés, on lentisque parsemé de fleurs d'agave, sur les collines noircies par les incendies de la canicule, là-bas, au-delà de la cité endormie, dont la famille a la noblesse déchue, à l'austérité hautaine, la flûte ne cesse de se lamenter. La plainte du berger nazi, le rythme d'un tambourin égaré hante la forêt. Il en émane la poésie de la douleur qui parsème l'œuvre entière d'Assad Jabbar. Pourtant, le personnage de la femme danseuse et marcheuse incarne une nouvelle femme libre et libérée qui peut jouir de son corps. La femme nomade représente une nouvelle identité féminine qui ose dire ses désirs. On ne sait même pas où elle se fixe, car elle ne dorme pas. Toute la nuit, elle danse, elle se trémousse, elle tortille spasmodiquement leurs hanches rondes et les épaules immobiles. Comme l'affirme Deleuze, le corps qui bouge réfléchit, s'interroge, découvre l'autre. Le corps qui danse extériorise ce que le langage verbal est en train de cacher. Tout en partant des éléments folkloriques de la danse, Assia Jabbar recrée la scène de la danse en l'intégrant dans un conte de fées, dans une légende. Ainsi, elle dépeint l'imaginaire des femmes berbères. Cette romancière possède une intelligence du détail. Elle capte et enregistre chaque vibration, chaque respiration, chaque sonorité provenant du fort intérieur féminin. Le corps de la femme en mouvement trouve la sortie de son propre corps-cage et du mutisme dans la danse. Tout commence par un rite protocolaire, par de petits mouvements du corps en cadence. Cette gestuelle est familière à des personnages féminins chez Jabbar et se prête à l'interprétation du deuil, de la joie ou bien de l'empathie partagée avec d'autres spectatrices. Le corps dansant est susceptible de sortir la voix étouffée de la mère archaïque, celle de la femme algérienne du passé. Et se dessine ainsi le concept de sororité, d'hospitalité des femmes qui reconnaissent leur propre langage du corps, ainsi que des signes non-verbaux nommés par la notion de la chora sémiotique par Julia Kristeva. En ce sens, la danse fait partie de l'oralité des femmes. La douleur des femmes est décrite par un bouillonnement provenant de leur ventre qui pénètre les poumons et arrive à s'évader, à sortir en tant que cri, sonorité non définie, transcrite par des mots qui contiennent des consonnes gutturales. D'où l'effet de l'écriture du ventre, l'écriture de la douleur, si particulière à Sedjebar. Cependant, l'auteur insiste sur le potentiel performatif du corps dansant, et en ce sens-là, la portée signifiante de la danse s'amplifie. Donc, dans le troisième temps, donc, nous observerons la fonction du corps dansant de la narratrice Isma sur le plan diachronique dont le roman va c'est la prison, celui de son enfance et de la femme adulte. Ces deux niveaux narratifs s'interpénètrent, se superposent et s'épaulent mutuellement. Et la scène inaugurale de la danse d'Isma adolescente réapparaît en analogue dans sa vie de la femme adulte. Il s'agit d'une technique de la création romanesque d'Assia Jabbar qui consiste à travailler et à retravailler un détail pertinent marquant l'enfance d'Isma qui coïncide à la sienne en plusieurs points et à l'insérer dans un autre plan temporel de la narration. L'auteur réinscrit ainsi ce détail matrice en tant qu'intertexte d'une scène plus élaborée. Cependant, ce procédé contribue à l'effet de déjà vécu en rendant l'histoire plus véridique, comme celle des femmes au pluriel. Et donc, ces fragments du roman Vaste la prison vont illustrer la nouvelle danse et le refus du modèle traditionnel donc, de danser. La première scène, donc cette scène matrice de la danse dans Vaste la prison, se déroule lors de la soirée de la danse organisée à l'occasion du mariage d'une cousine à Isma. Entourée par les regards surveillants de vieilles matrones, cette jeune fille se voit comme l'objet des rumeurs à cause de son style vestimentaire, plus libre que celui des jeunes filles élevées dans l'esprit traditionnel. Le dos et les bras nus devant autres quelques minutes après, m'oublier pour chevaucher le rythme et découvrir le plaisir neuf du corps malgré le public et ses yeux. Explique Isma. Consciente de provoquer le scandale, la narratrice tient à présenter sa propre façon de danser qui implique une autre façon de penser. Mon attention s'exacerbe dans les renversements et les torsions de mes hanches, de mes épaules, dans la mouvante libre de mes bras. La danse d'Isma ne poursuit pas les mouvements prescrits par d'autres femmes et obéit au rythme de la musique. Et dès lors, cette adolescente devient l'objet de la stigmatisation et du rejet des matrones de la fameuse danseuse pécheresse que fut Salomé. Isma danse, les traits durcis et de timidité et d'ardeur, mais trop vivant, trop nerveusement, trop allègrement. Comme c'est étrange, d'où vient-elle? D'où sort-elle? Vraiment, elle, l'étrangère. Isma pratique le style traditionnel donc de la danse, nommé le style kabyle, y met en valeur son propre style de la danse, tout en empruntant aux éléments de la chorégraphie de la danse moderne occidentale. Et justement, ce métissage des styles lui permet de danser plus légèrement et de vivre une autre expérience, de dépasser les limites d'être femme algérienne. Donc, cette danse trans démontre déjà son éros et lui permet de l'extérioriser. Et c'est comme ça que nous en arrivons à la scène symétrique, à celle de la danse de la narratrice Isma adolescente, et cette fois racontée du point de vue de la femme mûre. 20 ans plus tard, la narratrice ose danser dans le cercle des hommes. Cette scène désigne une rupture avec la vie intérieure de la narratrice, elle est performative et ouvre sur la quête identitaire de la narratrice. Dans le roman Vaste et la prison, on recourt à l'explication de l'épisode de la danse d'Isma par le terme la scène, puisque cet acte contient en lui-même une anatomie, une architecture théâtrale. La narratrice décrit cette stance de sa vie comme scène par le procédé de la fragmentation et de la rupture. Autrement dit, elle abandonne et y revient à plusieurs reprises. Le morcellement du texte résulte par le ralentissement du temps de l'action romanesque ou encore par la suspension du temps. En premier lieu, Isma recourt à la danse, le moyen pour séduire l'homme dont elle est amoureuse, qu'elle a nommé l'aimé. Ce rapprochement de l'homme aimé se fait par la communication avec le monde extérieur et également par la découverte des performances de son propre corps. Cependant, la portée signifiante de la danse s'amplifie. Cette activité, considérée dans la culture moderne occidentale comme un simple mouvement de loisir et de détente, est soumise à une autre interprétation dans la culture arabo-musulmane. Elle est transgressive puisqu'elle se déroule devant les hommes et avant tout devant son époux. Isma ose danser pour un autre homme que son mari, pour son aimé. La visibilité de son corps, mais aussi l'expression de son éros, lui permettent de s'affirmer en tant que sujet désirant et objet désiré. Je compris que je devenais attentive à quelqu'un d'autre. Ainsi, un homme m'avait regardé danser et j'avais été vue. C'était ma passion qui fermentait. Le tangage du corps débouche sur une logique du langage intime qui dispose des moyens de crier le désir retenu. D'où le sentiment de la délivrance des moules traditionnels, de la découverte du remède contre son aphasie amoureuse. Le courage de lancer le regard en dansant et de le recevoir la conduit à la prise de conscience de sa vie à elle. Il s'agit également d'une mise en scène de la séduction, mettant en valeur la danse comme le moyen de la théâtralisation du désir. Les yeux qui se cherchent, qui communiquent à la dérobée, les corps qui s'attirent, désireux de s'unir. Grâce au souvenir de son relâchement dans la danse, Isma parvient à abolir les interdits qui contraignent son amour et ce dernier se transforme en appétit de vivre. Je dansais, j'ai dansé, je danse encore depuis cette nuit. Dans les textes d'Assia Djebbar, la danse représente un sujet polyvalent, ouvrant la parole du corps humain. Cette activité, réunissant plusieurs formes d'art, permet d'exploiter les différentes techniques de la corpographie. S'y rencontrent les regards sexués, l'odeur et la couleur du désir. Les corps avancent, se lancent dans une aventure fusionnelle, supprimant tout ce qui les sépare les uns des autres. les masques tombent, les corps parlent. En guise de conclusion, nous pourrions dire que la danse participe à la construction de l'identité féminine en tant qu'hybride, multiple, au sens d'illusion du terme. Se dilatant, cet instant de la danse amène à la prise de conscience de son corps. En tant que corps de la femme algérienne, en tant que corps social et civilisé, mais aussi en tant que médium susceptible de renverser l'ordre établi. Je vous remercie de votre attention.
Merci beaucoup, Yelena. En tout cas, vous avez tenu le temps d'une façon très rigoureuse. Donc, si vous avez des questions très précises sur cette communication, des choses à éclairer, peut-être que... Et sinon, s'il n'y a
moi,
pas
de... Moi, en fait, nous avions discuté, Ophélie et moi, de la façon de procéder et je pensais garder mes questions pour la fin. Mais je crois que ce serait mieux, sauf s'il y a une foule de questions à poser à Yelena tout de suite. Moi, j'en aurais une ou deux, donc la parole à la salle d'abord. Non. Alors moi, j'en aurais deux. Une de quelqu'un qui avoue son ignorance du terrain algérien et l'autre qui est un peu générale. Je suis frappée par le fait, vous le dites dans le début de votre papier, que la danse dite kabyle soit la danse archétypale, soit devenue la danse archétypale de l'Algérie. Est-ce que vous pouvez peut-être, je ne sais pas, vous êtes plutôt dans les études littéraires que dans l'anthropologie, mais est-ce que vous avez quelque chose à préciser là-dessus? Et d'autre part, vous avez utilisé à plusieurs reprises le mot de transe, soit tout seul, soit accolé à danse-transe. Et autant vous avez bien expliqué, en tout cas vous avez eu le temps de le faire dans la version écrite de votre papier, en quoi consistait justement cette danse dite kabyle, autant la transe et la danse transe, et notamment ces dimensions genrées, ne sont pas tellement explicitées. Alors est-ce que peut-être vous pouvez donner quelques éléments là-dessus?
Oui, merci de m'avoir posé ces questions. Donc, comme j'ai travaillé donc dans le cadre de ma thèse, j'ai travaillé sur l'expression de l'éros féminin. Et donc, j'ai étudié plusieurs passages donc des romans d'Assia Djebbar. Et donc, j'ai repris la danse comme un élément très, très récurrent qui illustre justement l'expression de l'éros féminin. Et donc, comme je ne suis pas spécialiste de la théorie de la danse, j'ai cherché l'explication. Et donc, comme je n'en trouvais toujours pas à l'époque, donc j'ai cherché forcément dans les dictionnaires de la danse. Et donc, ce sont les références notamment de Liliane Lièvre que j'ai reprise dans mon travail. Donc, c'est un dictionnaire en fait des danses au Maghreb. Donc, il y avait forcément des explications concernant les danses en Maroc, les danses en Algérie. Et donc, ce que j'ai trouvé comme les explications, c'était que la danse donc dite kabyle, donc qu'elle est typique et qu'elle est récurrente en fait, qu'elle est repérée comme danse typique en Algérie. Donc moi non plus, je ne connais pas le terrain anthropologique donc d'Algérie. Ce sont les références qui m'ont permis de définir le style de la danse. Parce que Assia Djebbar, elle parle de la danse typique, de la danse traditionnelle, de sa grand-mère et des matrones. Après, j'ai cherché donc la notion de la matrone. Pour moi, c'était quelque chose complètement d'abstrait, parce que je n'ai pas compris si Assia Djebbar voulait lui attribuer un pouvoir imaginaire, donc à la femme un peu mûre, à la femme qui a le pouvoir de décider, de définir le style de la danse. Et effectivement, j'ai découvert que la figure de la matrone, qu'elle existait effectivement dans la société algérienne, et que c'est la maestra, donc la femme mariée, qui orchestrait en quelque sorte, qui dirigeait la danse, qui déterminait en quelque sorte le style de la danse. Et quand j'évoque la danse traditionnelle, la danse typique, je pense tout d'abord à ce style traditionnel de la danse qui renvoie à la douleur féminine et à la douleur silencieuse qui ne peut être extériorisée que par la danse. Et donc Isma, qui veut danser d'une autre façon, de sa propre façon. Elle prend un style de la danse plutôt moderne ou métissée. Et là, vraiment, on voit l'éducation métissée d'Assa Jabbar qui s'identifie à plusieurs reprises, donc à la narratrice, donc Isma. Et là, on peut voir aussi une sorte d'hybridité, de multiplicité d'une éducation donc à la fois française, occidentale, on peut dire moderne, en gardant l'ancrage de ce style traditionnel, donc de ce style arabo-musulman, musulman ou algérien de la danse. Voilà, et la deuxième question
c'est sur la transe, mais peut-être qu'on va, je sais pas, c'est toi la gardienne du temps, ça n'est pas moi, c'est lui.
Non, vous pouvez répondre hein, si vous avez des
trans,
éléments.
Alors, qu'est-ce qu'on appelle la transe et est-ce qu'elle a des caractéristiques de genre?
Oui, donc la transe, donc j'ai essayé de trouver aussi les informations donc, concernant la transe. Parce que je ne pouvais pas comprendre en fait si c'était toujours la dimension imaginaire vraiment d'Assa Jabbar, donc quel point on peut faire la différence entre l'imaginaire, le littéraire et le réel. Et effectivement, l'état de la transe existe vraiment. Donc c'est un état qui permet justement à la femme de transcéder la réalité, la condition telle qu'elle est, d'extérioriser ce côté caché, ce côté pudique, ce côté peut-être interdit au public. Un état de dérèglement complet, un état de libération érotique, mentale. Tout est mélangé là-dedans. Et ce qu'on trouve en fait dans ces passages, c'est une poétique en fait, c'est une sorte d'imaginaire qui colle parfaitement en fait à cet état de la transe, qui est enrichi grâce aux descriptions et grâce à l'exacerbé un peu, grâce au rythme de la phrase, grâce à cette poétique de la tradition berbère, et cette notion m'interpelle beaucoup, et donc je pense que je vais continuer mes recherches dans cette optique là comment le réel, donc la danse réelle, la poésie, la musique sont représentées en fait dans le texte par quel moyen littéraire.
Merci beaucoup.
Merci. Vous avez d'autres questions? Non. Donc on va pouvoir passer à la communication de Marie Séget sur le Burundi. C'est à vous.
Très bien. Donc un sujet un petit peu différent. Moi je travaille plutôt en relations internationales et je travaille sur les effets des programmes internationaux sur les conduites sociales féminines en société post-conflit. Donc sur le cas du Burundi en particulier. Donc quand je parle de programmes internationaux, j'entends les discours et les pratiques d'intervention sur la question du genre et de la condition des femmes, et également les structures et les agents qui les mettent en place. Donc que ce soit les Nations Unies, les ONG internationales, certaines organisations internationales et d'autres acteurs. Dans cette communication, je ne vais pas discuter de la confusion entre femmes, genre. Par ailleurs, le caractère international de ces programmes sera discuté. Donc, je m'intéresse à un aspect particulier de ces conduites sociales féminines, donc les dynamiques de regroupement féminin, donc que ce soit les organisations de la société civile, aux groupements plus locaux ou les réseaux. Je vais rapidement rappeler le contexte théorique et empirique de cette communication. Donc en fait, on observe un intérêt croissant pour la thématique genre et post-conflit, avec une attention spécifique à toutes les pratiques internationales, notamment depuis les 10 ans de la résolution du Conseil de sécurité, donc la résolution 1325 sur femmes, paix et sécurité. Et, mais c'est une analyse, donc cette littérature qui s'intéresse à ces sujets est souvent normative, c'est-à-dire qu'elle va critiquer les stéréotypes associés aux femmes ou au genre, ou l'influence dite perverse de ces programmes sur, par exemple, le militantisme local. On observe également en fait un intérêt vraiment pour ces dynamiques de regroupement par les programmes, parce que c'est entendu comme une stratégie d'autonomisation pour ces femmes et également un instrument par lequel ces programmes, ces acteurs internationaux vont pouvoir agir au niveau local. Pourquoi le Burundi ? Donc, tout d'abord parce que c'est un pays qui est paradoxalement assez peu étudié donc, en termes de littérature sur le post-conflit. Alors que ça a une portée exemplaire en fait, des dynamiques que l'on peut retrouver dans ce type de contexte, notamment sur les questions de réconciliation, de réintégration des réfugiés, l'instabilité politique, bien entendu, la prolifération des armes légères, la question de la justice transitionnelle, etc. Ensuite, parce qu'on peut observer vraiment le kit d'intervention, si on peut l'appeler ainsi, dans ce genre de contexte, avec des l'opération démobilisation, désarmement, réinsertion, des diverses opérations tout d'abord de l'Union africaine, puis des Nations unies et d'autres acteurs encore. Et enfin, pour les caractéristiques propres de cette société, où contrairement à ce qui se passe en Afrique de l'Ouest, il n'y a pas de tradition d'organisation, de regroupement au niveau local très ancrée. Donc c'est plutôt des pratiques qui ont été forcées, type villagisation ou les milices pendant la guerre civile. Et enfin, on observe en fait depuis la guerre civile, donc qui a commencé en 1993, des dynamiques de regroupement assez importantes. Donc pour deux raisons, il s'agit tout d'abord de s'organiser pour faire face à ces défis dus à la guerre ou au post-conflit, et également face à l'incitation des acteurs internationaux. Donc j'en parlais. Et dans ce contexte-là, il y a un dynamisme tout particulier des organisations féminines au Burundi, notamment en ce qui concerne les processus de paix d'Arusha dans les années 2000, où on a eu des mobilisations de femmes pour participer à ces négociations de manière informelle, où en 2000, elles ont obtenu un statut d'observatrice, à ces processus de paix. Donc dans ce papier... Enfin, dans ma communication, il s'agit d'analyser à partir du cas de l'agence onusienne UNIFEM, devenue ONU Femmes en 2010, donc d'observer les interactions dans la production et la mise en œuvre de ces programmes internationaux et d'étudier leurs effets sur les dynamiques de regroupement féminin au niveau local et plus largement sur le jeu politique burundais. Donc j'ai plutôt m'attaché au processus qu'à l'étude du contenu de ces programmes. Donc la question que je pose, c'est comment ces programmes, en encourageant ces dynamiques de regroupement féminin, s'insèrent, voire s'ingèrent dans le jeu politique burundais. Donc il s'agit moins d'analyser l'efficacité de ces programmes que d'en étudier les effets directs ou indirects, inattendus ou attendus sur les liens sociaux et politiques entre femmes. Sur la méthodologie, donc moi je travaille plutôt en sociologie des relations internationales. Ça ne m'empêche pas d'avoir une approche qui soit au croisement des études africaines, des études de genre ou de l'anthropologie par exemple. Donc je travaille à partir du cas d'ONU Femmes, où j'ai pu effectuer un stage l'été dernier, donc dans une optique d'observation de l'intérieur des pratiques internationales. Donc ma démonstration va s'articuler en deux parties. Tout d'abord, je vais m'attacher à discuter le caractère hybride de la production et de la mise en œuvre de ces pratiques internationales. Et ensuite, ce qui constitue plutôt le cœur de ma thèse, c'est de parler des effets de ces dynamiques interactionnelles sur le jeu politique burundais, entre rapprochement des liens sociaux et politiques entre femmes et exacerbation de leur division, donc mettant à mal les efforts destinés à faire des questions de genre des questions véritablement politiques. Donc tout d'abord, je vais parler de l'hybridité des discours et des pratiques. Donc je me base sur une définition qui est donnée dans un ouvrage qui s'intitule « International Peacebuilding and Local Resistance » donc pour parler de l'hybridité, donc the composite forms of social thinking and practice that emerge as the result of the interaction of different groups, practices and worldviews. Donc en fait, ce qui m'intéresse, c'est de voir dans quelle mesure ce concept d'hybridité est utile pour décrire les interactions à multiniveaux, donc international, national et local, et multi-acteurs qui interviennent dans la production de ces programmes. Et ensuite, voilà des questions plus pratiques. Comment opérationnaliser ce concept? Comment l'observer? Voilà. Donc les programmes internationaux, il y a une grande complexité en fait pour essayer d'identifier ces programmes parce qu'ils s'articulent à des programmes nationaux qui sont réalisés conjointement entre les acteurs nationaux, donc type le gouvernement burundais mais également d'autres acteurs, et les acteurs internationaux, donc Nations Unies, ONG internationales, etc. Donc il y a des tentatives de coordination croissantes hein, pour essayer d'articuler tous ces programmes, mais je ne vous cache pas que c'est quand même d'une grande complexité dont on ne discutera pas ici. En tout cas, la structuration vraiment de ce champ de politique sur le genre est un enjeu central en fait, qui réunit un nombre élevé d'acteurs différents. Donc je vais vous concrètement comment ça se passe au sein des Nations Unies. On observe un glissement du leadership sur ces politiques du PNUD, donc le programme des Nations Unies pour le développement, à UNIFEM, devenu UNIFEM en 2010. Donc c'est plutôt des dynamiques compétitives qui ont pour l'objet qui va piloter toutes ces politiques, obtenir les financements, etc. Les relations d'UNIFEM avec les ONG internationales sont sensiblement différentes. D'après le témoignage d'une des fonctionnaires d'ONUFEM, ce sont des champs d'action différents, des missions différentes. Donc elle parlait plutôt de dynamiques parallèles. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que ces effets de fragmentation et de superposition des initiatives entre les acteurs, il n'y a pas de ligne cohérente et tracée des politiques, mais ces programmes sont élaborés par strates successives et souvent ajustés. Et ce qu'il en sort des entretiens avec les organisations de la société civile, les organisations féminines locales, c'est que finalement cette fragmentation fournit aussi une fenêtre d'opportunité pour les acteurs locaux d'agir sur le processus. Dans un deuxième temps, donc, je vais m'intéresser au circuit de production et de mise en œuvre de ces programmes. Donc on a souvent l'idée que c'est un circuit plutôt... descendant, donc du niveau international où sont, élaborées les politiques, puis jusqu'à sa mise en œuvre au niveau local. Mais ça peut également être ascendant avec une visibilité des problèmes sociaux à partir du terrain. Mais moi, je m'interroge en fait sur la pertinence de la séparation entre ces différents niveaux et je me demande si pour... vraiment comprendre ce qu'est un programme international, il ne s'agirait pas plutôt d'aller observer ce qui se passe dans les espaces où sont produits ces programmes. Donc concrètement, ça va être les formations, les réunions, où on va discuter des programmes, où on va élaborer des concepts. Et lors de mon terrain, j'ai pu participer, vraiment faire de l'observation participative de ces fameuses semaines de formation entre les acteurs onusiens, les ONG, peu d'ONG internationales quand même, mais le gouvernement burundais, les organisations féminines, etc. Et on peut conclure plutôt sur des processus hybrides, où finalement l'international est travaillé par le local. On pourra en discuter par la suite. Donc la deuxième partie de cette communication, c'est plutôt le centre en fait de la question que je pose, c'est montrer les effets de ces mécaniques complexes et interactionnelles sur le jeu politique autour de ces questions de genre. Donc on peut parler d'un rôle assez important des programmes internationaux et notamment d'UNIFEM, ONUFEM au Burundi dans l'encouragement des dynamiques organisationnelles féminines. Donc quant à leur création à partir du milieu des années 90, à leur structuration et à leur articulation selon différents axes, donc politique, économique, social ou culturel, et différents niveaux. Donc au milieu des années 90, je vous parlais des mobilisations féminines tout à l'heure pour participer au processus de paix. Donc ces mobilisations féminines autour de défis matériels, il s'agissait vraiment de répondre à l'embargo qui avait été décidé par les pays voisins du Burundi et également de répondre aux défis politiques, c'est-à-dire d'avoir une voix dans ces négociations sur la paix. Et donc, comment intervient ces secteurs internationaux ? Donc, UNIFEM, à l'époque, va apporter un appui financier à ces mobilisations de femmes et également une visée internationale. Elle va permettre à ces femmes de faciliter la prise de contact entre elles et également le lobbying auprès de ces négociations. Et donc, elle fournit des espaces sociaux de rencontre donc de ces femmes urbaines et éduquées, il faut quand même le dire, qui n'auraient pas pu interagir dans un autre cadre, parce que c'est une époque où les défis, les tensions ethniques sont très importantes. Et donc, parler au sein d'UNIFEM, ça provoque moins de tensions que de parler au sein d'une organisation X ou Y. Donc, ces acteurs ont posé les conditions de ce rapprochement qui est encore d'actualité aujourd'hui, c'est-à-dire c'est encore une des stratégies d'UNIFEM de favoriser un rapprochement entre ces femmes de partis politiques différents. Donc, également, à partir du milieu des années 2010, la dimension autonomisation économique devient de plus importante au sein des programmes. Et une des stratégies de ces programmes, c'est de créer des groupements locaux dans lesquels ces femmes vont pouvoir mettre en commun de l'argent, créer des projets ensemble. Alors, ce qu'il en sort, il n'y a pas vraiment d'études sur l'impact de ces programmes, mais ce qu'il en sort, c'est qu'il y a peu d'effets au niveau économique. Ça ne marche pas tellement, en fait. Les femmes ont tendance à sortir de ces groupements locaux et mener leurs projets de manière individuelle. Mais c'est surtout un impact social, donc de rapprochement, comme je le disais. Et enfin, ces programmes interviennent également dans la structuration de ces organisations, essayer de créer des réseaux, donc du niveau national au niveau local, de l'urbain vers le rural. Et au jour d'aujourd'hui, les effets sont encore... Enfin, il y a encore très peu d'effets, c'est pas très opérationnel. Il y a vraiment une difficulté à articuler le niveau urbain avec le niveau rural. Et finalement, ce qu'on peut dire, c'est que certes, il y a un rôle technique, c'est-à-dire de financement, de formation de ces acteurs, mais c'est également un rôle politique. Qui dit politique, implique aussi une analyse dynamique, c'est-à-dire une analyse de l'évolution de ces liens. Donc justement, l'évolution du rôle d'UNIFEM ONU-FEM, c'est-à-dire dans les acteurs ciblés ou les stratégies qui sont élaborées, cette évolution, elle crée des tensions en fait. Et elle invite à réfléchir sur la place des programmes dans le jeu politique burundais. Pourquoi elle crée des tensions ? Parce qu'on a vraiment un contexte qui évolue. D'accord. Donc ce contexte... En fait, à la fin de la guerre civile, on a eu tendance à se focaliser sur les organisations de la société civile parce que les institutions étatiques ne sont plus sont très peu opérationnelles. Et à partir de 2010, où on observe, enfin, est plutôt décidée une transition entre l'humanitaire et le développement, les programmes internationaux ont glissé leur attention des organisations de la société civile aux institutions nationales. Et ça crée beaucoup de tensions en ce moment dans les relations et les rapports de pouvoir entre organisations de la société civile et institutions étatiques. Ça se voit particulièrement avec la question foncière, qui est très sensible au Burundi, où il y a un blocage politique sur cette question, c'est-à-dire qu'on refuse aux femmes le droit de succéder des terres. Donc c'est une question très importante. Et finalement, ONU-FEM, dans cette configuration, a une position vraiment d'équilibriste, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas lâcher complètement les organisations de la société civile dans leur combat, mais également elle ne peut pas non plus créer d'incidents diplomatiques avec les institutions nationales, c'est-à-dire en se focalisant uniquement sur ces organisations féminines. Et pour finir, ces questions qui sont assez complexes et ce soutien qui évolue d'ONU-FEM des organisations féminines aux institutions nationales a créé aussi a fait éclater cette catégorie femme, qui était déjà éclatée, mais disons a révélé ces divisions au sein de la catégorie femme entre femmes urbaines et femmes rurales, où les femmes rurales finalement sont moins impliquées sur la question foncière parce qu'elles souhaitent garder des bonnes relations avec leur mari, leurs frères, leur père, et également une accentuation du clivage entre femmes leaders des organisations de la société civile et les femmes qui ont été donc qui ont eu des postes au sein du gouvernement ou du parlement et qui peinent à relayer les revendications de cette société civile au niveau politique et à les intégrer dans les programmes de reconstruction du Burundi. Je vous remercie.
Merci beaucoup. Donc, même exercice, si vous avez des questions ponctuelles à poser à Marie au sujet de sa communication. Oui.
Est-ce qu'il y a un rôle des organisations professionnelles dans les associations de femmes ? Est-ce qu'il y a beaucoup d'associations de femmes qui sont basées sur des critères professionnels, protestants, catholiques ?
Oui, c'est une bonne question. Alors au Burundi, donc on a une très forte majorité qui est chrétienne, donc catholique, même si on a une émergence des églises protestantes évangéliques. Je dirais que c'est pas un facteur, et il y a une minorité donc musulmane, donc notamment les populations swahili. Je dirais que c'est pas une ligne de clivage en tout cas de ces organisations féminines. Pour moi, la question urbain-rural est beaucoup plus importante que la question confessionnelle, mais c'est une question à creuser.
Moi, j'ai une petite remarque et une question, sachant que la remarque, on pourra en discuter, puisque peut-être que Marie Brochin aura des choses à apporter aussi de son côté. Donc cette remarque, elle concerne votre expression, que je trouve très bonne, de kit d'intervention, et qui, pour moi, m'évoque tout ce qui est théorie aussi de paix libérale. Donc là, on a par exemple des gens comme Mark Duffield qui ont pas mal écrit là-dessus, et je pense que ce serait bien aussi de resituer, parce que tout se passe pas au niveau de l'ONU Femmes ou Burundi.
Bien sûr. Mmh.
Les choses sont décidées à New York, au début, le type d'intervention. Mmh. Voilà, bon, après, il y a une certaine marge de manœuvre, peut-être. Enfin, après, ça dépend des contextes et des personnalités. Mmh. Voilà. Mais bon, voilà. Donc ça, c'est la première chose. Et deuxième chose, une question. Je me demandais si vous pouviez nous parler un peu de la voix des femmes dans le processus de paix. Parce que, voilà.
Tout à fait.
Vous avez un peu
oui.
abordé. Si c'était... si au fond, vu que l'ONU Femmes avait un rôle dans la structuration de ces organisations, est-ce qu'au final, leur rôle dans cet accord de paix, c'était plus... de la tapisserie, mmh.
La question de la, enfin, tout d'abord, le contexte théorique de paix libérale, oui, c'est extrêmement important, et c'est vrai que là, je pars d'un cas d'étude UNIFEM, mmh. ONUFEM, pour essayer de voilà donner une entrée en fait à tout ce contexte normatif énorme de.
Ça pourrait relier au
oui.
Voilà, parce ouais. que vous le reliez vraiment à la politique et à l'impact ouais. sur la
politique locale. Oui, non, c'est très intéressant. Et sur la voix des femmes et notamment le rôle d'UNIFEM à l'époque, alors c'est des mobilisations qui sont nées de manière, enfin au niveau local vraiment. Voilà, on sait plutôt des femmes éduquées qui appartenaient à l'Union des femmes burundaises, qui, enfin voilà, donc qui était une organisation de femmes mais vraiment nationale, comment dire. Enfin, qui avait peu de voix, en fait, qui était complètement reliée au parti politique. Donc, ces femmes-là se sont un petit peu autonomisées de ce parti, ont créé le CAFOB, donc, qui est le réseau principal des organisations féminines au Burundi. Et on a, je dirais, une dizaine de femmes très motivées burundaises qui ont véritablement fait du lobbying auprès des personnalités politiques comme Museveni, en Ouganda, également Nyerere, qui était un des médiateurs du processus de paix, puis Nelson Mandela. Et UNIFEM, après, c'est à creuser, je suis au début de ma thèse, donc il manque des éléments, mais oui, il y a eu un rôle assez important, qui est notamment souligné par ces femmes, par les organisations de femmes, parce que, comme je le disais, c'était pas seulement technique, manière de formation, comment parler, comment ou financier, mais surtout politique, c'est-à-dire que ces femmes, elles pouvaient appartenir à des partis politiques différents, elles étaient d'ethnies différentes, et donc il fallait qu'elles se rencontrent, en fait, et des espaces considérés neutres, voilà, comme... Et puis ça apportait aussi une légitimité internationale, c'est-à-dire qu'ensuite, ces mobilisations de femmes, des femmes burundaises pour participer au processus de paix, elles ont été érigées comme bon exemple avec ce qui s'est passé au Liberia, et souvent cité dans les rapports des Nations Unies. Voilà, donc il y a eu une...
Et dans l'accord de paix, ça se fait pas ou pas ?
Dans l'accord de paix, paradoxalement, donc seulement les violences sexuelles ont été intégrées dans les cessez-le-feu. Pour tout ce qui est participation politique des femmes, non. Mais en fait, ça a tellement été connu, en fait, au niveau local et international, que du coup, elles ont eu... ça a été très facile pour intégrer ça dans la Constitution en 2005.
J'avais juste une question en ce qui concerne les programmes qui peuvent amener à révéler certaines divisions entre les femmes, donc urbain, rural, les différences dans le leadership des organisations. Tu n'as pas du tout évoqué la question des différences ethniques. Est-ce que ça veut dire qu'au niveau de la structuration des mouvements féminins, ce n'est pas important au Burundi, que la division urbain-rural est plus importante et dépasse finalement ce qu'on va plutôt mettre en avant, c'est-à-dire les différences éventuellement ethniques entre locaux et différents.
Dans les entretiens, en tout cas, cette question-là n'est pas apparue. Elle était très importante au début. Donc, comme je le disais, ça a été très compliqué pour ces femmes de se retrouver ensemble. Très compliqué parce qu'elles ont dû le justifier dans leur entourage. Il ne fallait pas seulement s'entendre entre femmes, mais aussi faire accepter leur mobilisation par leur entourage. Je dirais que maintenant, c'est moins important, encore que ces organisations féminines sont souvent le leadership souvent porté par des femmes d'ethnie Tutsi, parce que ce sont ces femmes-là qui ont été éduquées, qui ont été scolarisées, à la différence des femmes Hutu. Et il y a beaucoup plus de femmes d'ethnie Hutu au niveau du gouvernement, du parlement, avec voilà, les systèmes de quotas qu'on retrouve dans l'accord de paix. Après, c'est pas une dimension... On peut en parler au Burundi, contrairement au Rwanda, on peut parler de la question ethnique, mais c'est encore assez... voilà, on ne peut pas dire, est-ce que vous pensez... c'est encore, je dirais, un sujet à exploiter, à approfondir.
Et donc, ça veut dire qu'au niveau de ONU Femmes, cette question n'est pas du tout abordée en tant que telle
Non, ce n'est pas une question qui est abordée en tant que telle. Ça sous-tend, parce que toutes ces, comme je disais, la dynamique de regroupement est entendue comme une stratégie d'autonomisation, mais aussi de rapprochement entre ces femmes. Donc, on va essayer voilà, de mettre des femmes d'ethnies différentes ensemble, mais ce n'est pas une question qui est abordée en tant que telle.
Donc on va passer maintenant à Marie Brochard, parce que pour qu'on ait le temps de discuter, après on pourra revenir sur toutes ces questions-là, je pense que vous allez avoir un certain nombre de questions. Donc Marie, vous avez besoin du PowerPoint?
Bonjour à tous, donc on va encore un peu changer de sujet. Moi je travaille au Sénégal sur l'infertilité et les nouvelles technologies de reproduction, donc j'espère que tout le monde sait ce que c'est. C'est tout ce qui regroupe les technologies comme la fécondation in vitro et toutes ces techniques-là. Je pourrais répondre à des questions si vous en avez là-dessus. Donc au Sénégal, il faut savoir que l'assistance médicale à la procréation, que je vais aussi appeler dans cette présentation AMP, c'est une déformation, ça va m'arriver, donc se pratique à Dakar depuis la fin des années 1980, bon, pour être précise, 1989, la première fécondation in vitro. La législation sénégalaise n'encadre pas cette pratique. Donc les médecins ont fait le choix de pratiquer qu'une assistance médicale à la procréation intraconjugale, c'est-à-dire seulement les gamètes du couple, il n'y a pas d'AMP avec don de sperme ou don d'ovocyte. En tout cas, à ce que j'ai pu enquêter, ça n'existe pas, mais je ne suis pas tout à fait sûre. Parce que c'est un sujet, comme vous allez le comprendre, c'est un sujet qui est très tabou et les gens ont du mal à en parler. Donc, s'ils ont fait ce choix-là de pratiquer qu'une AMP intraconjugale, c'est parce que la religion musulmane, qui est la religion majoritaire au Sénégal, préconise cette forme d'AMP et rejette toute AMP avec don, que ce soit don de sperme ou don d'ovocyte ou même gestation pour autrui. Donc, cette activité relève du secteur privé, ce qui veut dire que seuls les couples des classes aisées peuvent y recourir et pas les autres. Donc ce que nous allons voir plus tard, c'est que l'infertilité met les couples, mais aussi en premier lieu les femmes, dans des situations de stigmatisation sociale. Et cependant, les politiques sanitaires sénégalaises se désinvestissent du sujet de l'infertilité et des nouvelles technologies de reproduction, qu'elles évaluent comme un problème mineur pour le pays. Donc je vais venir à ma méthodologie d'enquête. J'ai fait deux enquêtes de terrain de 3 mois. J'ai réalisé des entretiens avec des couples infertiles ou des hommes, des femmes, ils ne venaient pas forcément ensemble, mais aussi des spécialistes de l'infertilité, des gynécologues, urologues, sexologues, andrologues. J'ai aussi réalisé des entretiens avec des chercheurs, anthropologues de la santé, sociologues, que ce soit sociologues de la famille, de la conjugalité. Ça m'a permis un peu de mieux connaître la société sénégalaise. Pour la mise en contact avec les couples, ce qui a été une des difficultés de mon enquête, je suis passée par deux gynécologues du privé qui m'ont mis en relation avec leurs patients ayant recours à l'assistance médicale à la procréation. Dans ma première enquête, j'ai eu très peu d'hommes. Donc, je suis passée après par la deuxième par des urologues, donc les spécialistes de l'infertilité masculine. Cette fois-ci, ils ne travaillaient pas dans le privé, mais dans le public. Donc, j'ai pu interroger des hommes, mais des hommes ayant des problèmes d'infertilité, mais n'ayant pas recours aux nouvelles technologies de reproduction. Mon cadre théorique, je me suis essentiellement appuyée sur les théories du genre concernant les sujets de la reproduction humaine, de l'infertilité et des nouvelles technologies de reproduction. En fait, ce que je souhaitais comprendre, c'est les enjeux de pouvoir entre les sexes à travers ces questions-là, de reproduction, d'infertilité et de nouvelles technologies de reproduction. Et j'ai analysé les différentes institutions familiales, médicales et politiques pour comprendre ces sujets-là. En fait, un petit peu ma question, on va dire, c'était de comprendre si ces nouvelles technologies de reproduction, en amenant un changement dans la reproduction humaine, pouvaient aussi amener un changement dans ce que j'ai appelé les normes de genre de la société sénégalaise. Donc je m'explique, ce que j'ai voulu appeler par normes de genre, c'est les représentations culturelles, sociales et religieuses qui portent sur des questions très précises d'identité sexuelle, de rôle sexuel, de rôle reproductif et aussi de hiérarchisation des sexes. Donc, il y en a plusieurs au Sénégal. Une qui m'a sauté aux yeux, c'est le mariage, que j'ai identifié comme une des premières normes de genre. Pourquoi ? Parce que 90% des hommes et des femmes en union sont mariés. L'islam recommande le mariage et condamne le célibat. Et aussi, la femme mariée a plus de valeur que la femme non mariée. Donc j'ai constaté que les normes sociales et religieuses restent prégnantes au Sénégal et situent le destin féminin dans le mariage et la maternité. Donc concernant le couple sénégalais, j'ai constaté qu'il y avait une asymétrie dans le couple. Souvent il y a un écart d'âge entre les conjoints d'une dizaine d'années, ce qui favorise aussi cette asymétrie. Les épouses doivent obéir au mari et ainsi qu'aux parents de celui-ci, car la non-obéissance peut entraîner un divorce. Ce que j'ai constaté aussi, c'est que la famille et la belle-famille jouent un rôle très important au Sénégal. Les parents, il faut savoir que les parents peuvent choisir le conjoint, la conjointe, et s'ils ne le font pas, leur consentement est très important pour le mariage, enfin, leur approbation sur le choix est très important. Ils ont aussi un droit de regard sur le vécu du couple et l'évolution du mariage. Donc une sociologue sénégalaise, Solange Folladé, insiste sur l'importance de la grossesse chez les femmes sénégalaises. Elle dit, je la cite, « La maternité est un de ses désirs les plus ardents, la stérilité peut être cause d'annulation de son mariage. Être mère non seulement assure la stabilité de l'union, mais confère un respect accru à la femme. » Donc il faut comprendre que le désir de grossesse au Sénégal, c'est encouragé fortement par la société et que ça donne un statut social à la femme. Je cite une autre anthropologue sociologue qui dit « Le statut d'épouse et de femme féconde, reste enviable et recherché. La valorisation des femmes passe toujours par le mariage et la fécondité. » Donc dans la suite logique, après le mariage, c'est les enfants. Et très rapidement, en fait, tout l'entourage du couple, que ce soit la famille, les amis et même les collègues de travail, attend d'une femme mariée qu'elle tombe enceinte. Ainsi, après un an de mariage, Madame D, par exemple, donc j'ai anonymisé toutes les personnes que j'ai interrogées, s'est inquiétée de ne pas avoir d'enfant. Elle me dit que son mariage était en jeu. Je vais citer une autre femme, Madame C, qui me dit « L'infertilité, on le vit socialement très difficilement, surtout au Sénégal. La famille sénégalaise, vous vous mariez et pour eux, dans l'année, c'est le bébé qui doit suivre. Ils veulent voir est-ce que la femme peut faire des enfants. Alors il faut faire un enfant la première année, la pression est assez forte. Avoir un enfant la première année qui suit le mariage, c'est forcé, même si on n'en veut pas, il faut le faire. » Au Sénégal, donc il faut comprendre que le mariage c'est très important et que les enfants occupent une place centrale. Monsieur G, que j'ai interrogé, partage cette opinion et me dit « Au Sénégal, le lien conjugal est un lien recherché dans le but d'avoir de la progéniture. Une progéniture, c'est ça qui sous-tend la société. » Donc si je vous parle de ces normes que j'ai appelées normes de genre, c'est pour que vous compreniez dans quel contexte se place le couple infertile face à la société sénégalaise. Donc l'infertilité est très taboue et elle stigmatise les couples touchés par ce problème. Donc je vais citer une psychologue, Sorna Seck, qui explique « En Afrique, l'infertilité n'est pas seulement un problème de couple, mais un problème de famille difficilement toléré par la société. » Donc, ce que j'ai pu constater dans mes enquêtes, c'est que le couple ne confie pas ses problèmes d'infertilité à sa famille, et ça reste un secret de couple. Il arrive des fois qu'une ou deux personnes soient au courant, comme une mère ou une sœur, mais s'il y a un sujet dont on ne parle jamais avec la famille, c'est l'infertilité du mari. Si les couples ne parlent pas de ces questions-là, c'est parce qu'ils ne veulent pas que leur famille s'immisce dans ces questions qu'eux jugent intimes. Ainsi, on peut dire que les couples sont très peu soutenus dans cette épreuve. S'ils ne veulent pas aussi en parler, c'est que la belle famille brandit souvent ce que j'appelle menace de la seconde épouse, c'est-à-dire qu'il faut savoir qu'au Sénégal, la polygamie est très pratiquée. C'est-à-dire que si la première femme ne tombe pas enceinte, la belle famille va dire au fils, prends une seconde femme. Ou des fois même lui imposer, c'est-à-dire des fois il ne lui demande même pas, c'est comme ça. Alors je vais vous citer Madame V qui me dit « Ma belle famille ne pense qu'à une seule chose, m'éjecter et me remplacer par une autre ». Et ça revient souvent. Donc concernant après les amis, les collègues de travail, eux aussi ils vont juger le couple. Les amis de Madame L par exemple lui demandent souvent « Mais tu attends quoi ?» Dans le contexte « Tu attends quoi pour faire un enfant ?» Et elle répond « J'attends Dieu, arrête de poser cette question ». Elle m'explique qu'elle préfère éviter d'en parler à ses amis, même à celles qui vivent aux États-Unis, par exemple au Canada, et qui pourraient comprendre les démarches d'assistance médicale à la procréation, car elle m'explique que si jamais elle se fâche avec, celles-ci vont lui causer du tort. Donc ce qui ressort des entretiens que j'ai menés, c'est que la pression familiale et la pression sociale, donc le mot pression, c'est vraiment les personnes qui l'emploient, poussent les couples à avoir des enfants très rapidement dès les premiers mois qui suivent le mariage, et cette naissance va beaucoup rassurer l'entourage du couple. Le couple infertile, en fait, ce que j'ai pu comprendre, c'est qu'il dérange la société dans son ordre préétabli de normes reproductives dont l'idée est un couple doit procréer. De plus, ce qu'il faut comprendre au Sénégal, c'est que la femme est vue comme la responsable de la reproduction, donc quand il y a un problème d'infertilité dans le couple, c'est forcément de son côté. Madame D m'explique « En Afrique, c'est la femme qui fait les enfants, ce n'est pas l'homme, mais ça dépend de la culture, du niveau d'instruction. » Le mari, lui aussi, est bien souvent convaincu que le problème ne vient pas de lui et que ça provient de sa femme. Donc dans un mémoire de maîtrise que j'ai pu étudier, Sorna Boy évoque un processus de féminisation de l'infertilité. Elle explique que la femme est indexée comme la responsable, mais aussi que les femmes s'indexent elles-mêmes comme étant les responsables de l'infertilité conjugale. Donc, dans la société sénégalaise, les gens connaissent l'infertilité masculine, enfin la connaissent plus ou moins, mais en tout cas ne l'admettent pas. Et il en va de même pour les hommes. Donc, un gynécologue interrogé m'explique que les hommes associent souvent virilité et fertilité. Et il explique aussi que les hommes se désinvestissent de leur fertilité, quoi. Il dit que beaucoup d'hommes divorcent, parce que beaucoup de personnes m'ont dit, divorcent à cause de problèmes d'infertilité, alors que c'est eux qui ont un problème d'infertilité conjugale. Enfin, donc, Sorna Boy, toujours dans ce même mémoire, affirme que les Sénégalais confondent infertilité et impuissance sexuelle. Elle dit « Il y a bel et bien confusion entre les deux, infécondité et impuissance, ce qui fait que l'on attribue respectivement l'impuissance à l'homme et l'infécondité à la femme. Par conséquent, un homme impuissant sexuellement ne peut pas être considéré comme infécond. » Elle analyse aussi les représentations de la masculinité au Sénégal. Elle dit, je la cite, « Dans le langage populaire, on a l'habitude de qualifier un homme qui a beaucoup d'enfants de gorbou d'aguerre, excusez mon accent wolof, un homme puissant. Donc celui qui n'arrive même pas à en avoir est souvent considéré comme un homme manqué, faible. Ainsi, le fait de considérer un homme comme infécond risquerait d'apparaître à ses yeux comme une sorte d'attaque à sa virilité. Aussi, l'impuissance sexuelle est mal vue dans nos sociétés. Un homme impuissant n'est pas considéré comme un vrai homme. » Donc c'est intéressant de voir que dans les représentations populaires, ces représentations populaires lient féminité, maternité et aussi virilité, paternité. Ainsi les personnes infertiles se trouvent non seulement privées d'enfants, mais aussi de reconnaissance sociale et d'un réel statut d'homme ou de femme. Donc, maintenant je vais passer à la question de l'assistance médicale à la procréation à Dakar. Donc, dans les parcours d'assistance médicale à la procréation, toutes les opérations sont pratiquées sur le corps des femmes, qu'elles soient elles-mêmes infertiles ou non. Bon, ça, il faut savoir que c'est aussi c'est la même chose en Europe. Donc, tout au long du parcours, le corps féminin est sollicité. Le protocole d'AMP, c'est quand même des protocoles contraignants. Il faut savoir qu'un mois avant les opérations, il y a des injections d'hormones pour stimuler l'ovulation qui se font tous les jours à heures régulières. Donc, c'est très contraignant et c'est très stressant aussi et fatigant pour les femmes. Les opérations peuvent être douloureuses, comme celle du retrait de l'ovocyte. Dans les cas d'infertilité masculine, c'est encore le corps féminin qui est sollicité. Madame D me raconte que pendant la fécondation in vitro, son mari avait pitié d'elle car elle souffrait pour son problème à lui. Elle me dit qu'il se sentait coupable de voir sa femme souffrir. Monsieur B, qui lui aussi est infertile, déclare que le traitement est dur et les échecs difficiles à accepter. Et il m'explique qu'il ne voulait plus voir son épouse souffrir au bout de quelques tentatives. Il voulait arrêter. Alors il me dit, mon épouse et moi on est très proches, ça nous a encore plus rapprochés, on s'est épaulés. La grosse partie dans cette histoire, c'est la stimulation qui provoque la prise de poids, les injections. Le mari en face, il devrait presque se sentir obligé de soutenir son épouse. C'est banalisé alors que ça reste lourd sur le plan physique, surtout pour l'épouse. Et ce qu'il faut savoir, c'est que, en fait, dans certains couples, les maris accompagnent systématiquement leurs femmes aux consultations, mais c'est très rare. Souvent, les femmes vont seules aux consultations pour l'assistance médicale à la procréation, et les maris ne viennent que ponctuellement, seulement quand leur présence est indispensable. Un gynécologue me dit même, beaucoup de femmes viennent seules aux consultations. Souvent, dans ces cas, le mari refuse les examens et de faire le spermogramme. 90% des femmes viennent seules en consultation et 10% en couple. Les hommes viennent soit parce que le médecin les convoque, soit parce qu'ils subissent aussi la pression sociale. Donc les hommes interviennent à des moments ponctuels, le spermogramme, et aussi ils sont souvent là le jour du transfert des embryons, ce qui ne paraît pas suffisant. Madame H, par exemple, dont le mari est infertile, m'explique « Je suis celle qui a le plus d'interactions avec le gynécologue, alors que ce n'est pas moi qui ai le problème ». Quand c'est le problème de l'homme, il n'est souvent pas pris en charge. Il réussit à surmonter son problème quand ça se passe bien, mais si ça ne marche pas, il ne le surmonte pas bien. Voilà. Donc pour conclure, en fait, je dirais que les normes de genre au Sénégal renvoient à l'image d'un couple marié avec des enfants. Les couples infertiles dans ce contexte dérogent à la norme et même ils indisposent la société. Ils sont donc marginalisés et sans cesse rappelés à l'ordre par leur entourage sur la venue d'un bébé. La maternité définit la femme, donc les femmes infertiles ne sont pas perçues comme étant des femmes. De même, la virilité d'un homme est remise en question dès lors qu'il n'a pas d'enfant. L'infertilité est toujours pensée au féminin, car la reproduction est l'affaire des femmes et il existe un déni social de l'infertilité masculine. Donc l'AMP, j'ai conclu quelque part que l'AMP au Sénégal se pratique sur la base des normes de genre de la société sénégalaise. La femme est la principale actrice des parcours d'AMP, et alors que l'homme se place en retrait dans ses parcours. Donc les interventions qui se pratiquent sur le corps des femmes sont parfois douloureuses. Ainsi, ce corps féminin garde une place centrale dans la procréation et la femme reste la responsable de l'infertilité d'une union. Cependant, les médecins sont les seuls à proposer une solution face à l'infertilité conjugale, là où la politique sénégalaise est inefficace. Ainsi, l'AMP propose quand même une sortie face à la stigmatisation sociale de l'infertilité conjugale. Voilà, je vous remercie.
Merci beaucoup. Donc, je pense qu'on est dans les temps.
Quelle autodiscipline, incroyable.
On va avoir du temps pour discuter. Peut-être encore une fois des questions ponctuelles pour Marie.
Merci. Moi, j'aurais juste une question par rapport à la situation sociale et économique des couples enquêtés. Et le coût, justement, de ces interventions. Et est-ce que c'est des cliniques privées? Enfin voilà, à Dakar, comment ça se passe, quoi?
Alors, c'est assez compliqué. Il y a peu de gynécologues déjà qui pratiquent ces techniques. Ils sont environ une dizaine, donc c'est pas beaucoup. C'est assez compliqué. Il y en a, les pères fondateurs, on va dire, de ça, qui ont commencé. Au début, ils faisaient. dans le privé et travaillent avec une clinique. Là, ils sont carrément implantés dans une clinique et donc eux, ils font leur truc de leur côté. J'ai pas pu accéder, très 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 compliqué. Mais sinon, les autres cliniques, non, elles offrent des services ponctuels, mais les gynécologues travaillent dans leur cabinet en fait. Et par contre, ils vont aller faire, ils travaillent avec un laboratoire qui fait de la biologie de la reproduction, donc ils peuvent aller dans les cliniques pour, par exemple, pour l'accouchement, et ils vont aller au laboratoire avec un biologiste spécialisé dans ces questions-là. Il y en a un sur Dakar. Un seul, enfin ils sont deux puisqu'il y a aussi cette clinique à côté, et lui il va s'occuper de ce qui est spermogramme, ce qui est transfert des embryons. Ça va se faire au laboratoire.
Un laboratoire public alors, du coup?
Non, privé. Non, c'est un peu ça. Ouais, tout se passe dans le privé. Dans les hôpitaux publics, il n'y a rien, et par contre ça commence à... Enfin, il y a une volonté des gynécologues que ça se passe dans le public, donc ils veulent notamment le faire l'hôpital CHU de Dakar, quoi. C'est un projet qui est en construction, mais voilà, c'est très long à mettre
en place. La question du coût?
Alors le coût, c'est différent selon les techniques, mais je vais prendre la fécondation in vitro, c'est 3 000 euros, quoi. Enfin, 1 million de francs CFA, 3 000 euros.
C'est des coûts placés?
La tentative.
De la classe moyenne?
Ah non, classe plutôt aisée.
Oui, je sais pas.
Ouais, moyenne, ça peut arriver, mais plutôt haute moyenne, on va dire. Et des fois avec... Des fois, ils ont des avantages par rapport à leur métier, parce qu'il y a des assurances, des métiers qui prévoient des espèces d'assurance maladie, donc ils peuvent se faire rembourser des médicaments ou même une tentative de... ils peuvent se faire rembourser une partie, donc ça les aide vraiment, quoi. Mais il y en a, ceux qui financent tout seuls, faut qu'ils aient les moyens.
Moi, j'ai plusieurs questions.
Oui,
en fait. La première, c'est, vous avez parlé au début de l'État qui ne reconnaît pas l'infertilité comme étant un problème, donc je me demandais si vous pouviez élaborer un petit peu, à votre avis, pourquoi, qu'est-ce que ça signifie, voilà, c'est assez classique comme question. Ensuite, on vient d'évoquer le fait que ce sont des couples de la classe franchement aisée, donc je me demande un petit peu, vu que quand même ça m'a l'air d'être une minorité, un phénomène qui concerne une minorité finalement, il y a un système de dot au Sénégal.
Ça, j'ai pas...
Parce que, vu que la procréation est aussi intimement liée au système de la dot, je me demandais si une femme qui ne peut pas procréer, par exemple, moi j'étudie le Sud-Soudan, donc Sud-Soudan, c'est le système de la dot. En français, on ne fait pas la distinction.
Monsieur Chouette, quoi, tu parles
de la dot.
Prix de la fiancée. Non,
voilà, exactement. Mmh. Donc, c'est le mari qui donne le capital à la famille de la mariée. Et si la mariée est infertile, eh bien, son père va redonner la dot. Donc, je me demandais si au Sénégal, il y avait un truc similaire. Et un petit peu dans cette même veine... Je ne sais pas si l'anthropologie, vous regardez l'anthropologie.
Je suis anthropologue.
Ah bon, pardon, excusez-moi. Et je me demandais si, en fait, vous avez évoqué le fait que, ce n'est pas quelque chose d'infertilité masculine que les hommes aiment à reconnaître. C'est socialement pas accepté. Et du coup, est-ce que vous avez entendu parler de tactiques de reproduction pour contourner l'infertilité, c'est-à-dire que par exemple dans le cas du Sud-Soudan, si un homme est infertile, ça se dira pas, par contre il va demander à un des membres de sa famille de coucher avec sa femme pour qu'elle puisse avoir un enfant. Donc je me demandais si au Sénégal c'était comme ça que les gens contournaient éventuellement l'infertilité.
Je vais reprendre les questions mais en même temps. Enfin, je sais pas si je réponds.
Oui.
Alors, oui, ça existe tout à fait, les pratiques de contournement comme ça. Alors, je sais pas, ce qu'on m'a dit plutôt, c'est que on m'a pas parlé dans la famille, mais on m'a plutôt dit que la femme, dans les cas d'infertilité masculine, partait souvent en voyage et puis revenait enceinte. Et que le mari accepte ça sans souci parce que c'est moins... Ce sera, c'est moins humiliant que ne pas avoir d'enfant, donc il va tolérer ça. Et puis, bah, quand c'est dans l'autre cas, dans les cas d'infertilité féminine, c'est encore plus facilement contourné, puisque là, il y a la polygamie. Donc, voilà. La deuxième question, c'était sur la dot. Je pense pas, en fait. Parce que, bon, il faut savoir que j'étais en ville, quoi, Dakar, quand même la capitale. Donc, on m'a jamais parlé de ça, de système de dot. Je pense que ce serait différent, effectivement, aux alentours. Ouais, aux alentours, peut-être en province, enfin, dans les autres villes, enfin, dans des plus petites villes ou villages. Et je vois bien de quoi. Parce que bon, j'ai travaillé toute la question de l'infertilité, de la stérilité et tout, et en Afrique. Et donc, je vois très bien de quoi tu lui parles. Du fait de. Enfin, il y en a des familles qui veulent même rendre la femme et prendre une autre. En échange. Ce que j'ai constaté aussi, c'est que souvent les couples sont, enfin, dans le cadre du recours à l'AMP, ils sont très unis, quoi. Ils se soutiennent dans l'épreuve et souvent ils disent, enfin, la femme dit que le mari refuse la deuxième épouse, que lui veut pas, qu'il aime sa femme, que.
C'est classe sociale
déjà. Oui. Mais la polygamie peut être pratiquée aussi à ce niveau-là et puis. Mais voilà, ils disent que il y a de l'amour, on sent dans les unions, et que pour eux, c'est, enfin, ils ont envie de dépasser ce problème d'infertilité. Pour eux, c'est pas grave, même s'ils n'ont pas d'enfants, c'est pas grave. Mais là, le problème, c'est social, quoi. Ils sont embêtés partout, quoi. Et sur ta troisième question, voilà, c'est compliqué. C'est vrai que je l'ai esquivé là parce que ça demande trop. C'est un peu compliqué. En fait, comme on a parlé un petit peu dans notre intervention, il y a des instructions qui viennent de plusieurs échelles, dont des qui viennent d'Amérique, d'Europe, qui demandent un peu une maîtrise des naissances. Enfin, que le Sénégal maîtrise un peu mieux ses naissances. Et donc la politique, elle est orientée vers les femmes. Déjà, ils pensent que aux femmes qui peuvent avoir des enfants. Et après, celles-là, il faut les aider à
en avoir moins.
En avoir moins, à espacer aussi pour la santé. Voilà, mais c'est vrai.
C'est l'État ou ce sont les organisations internationales?
L'organisation internationale, ça c'est clair. L'État, voilà. L'État est ambigu parce que je pense qu'il est entre ça, parce que là il y a les financements, et entre la religion, parce que c'est un pays très religieux, très musulman, et la religion qui elle est dans l'islam, qui est dans une politique plutôt nataliste, qui est pas du tout dans les trucs de contraception et tout, c'est pas ça. Donc je pense que l'État, il essaye de faire avec ça, et que c'est pas facile. Donc, ils prennent pas pour vraiment en compte. Enfin, ils le prennent en compte dans le texte, mais concrètement, les couples et puis les gynécologues et tout me disent, il y a rien, c'est zéro, quoi. Les politiques sur l'infertilité, c'est zéro. Alors sur l'AMP, il y a même pas de loi, donc ça, c'est quand même que ils se désinvestissent vraiment de, ce sujet, quoi. Et ils voient pas l'aspect stigmatisant. Enfin, c'est ça qui est un peu.
Une dernière petite question et ensuite on va passer la parole à Nugon et on reviendra. Non, c'était pour.
Moi je me demandais si à côté du parcours hospitalier, en fait les couples suivent autre parcours thérapeutique. C'est-à-dire, déjà, si la somme sont mal biomédicale, faut s'expliquer qu'est-ce qui se passe dans la couple. Parce que moi aussi je travaille au Sénégal et ça m'explique voilà, on pense à la sexualité seulement à pathologie biomédicale, il y a beaucoup de croyances. Donc si avant, par exemple, d'aller à l'hôpital, ils s'adressent à d'autres films thérapeutiques, si à côté ils font d'autres percours thérapeutiques, si dans les discours des couples que vous avez retrouvés, c'est genre des pluralités des sources thérapeutiques.
Oui, clairement. Mais c'est pas avant, après, c'est en même temps. C'est en même temps, ils sont sur plusieurs. Donc là, toutes les classes sociales confondues, c'est guérisseur, marabout et biomédecine, ou hôpital pour les couches plus populaires, et biomédecine, cabinet privé pour les couches plutôt aisées. Et c'est vraiment en parallèle. C'est un itinéraire de soins en parallèle, c'est-à-dire l'un n'empêche pas l'autre et on fait tout en même temps. Alors il y en a, ils font que biomédecine et ils restent là-dessus et ils disent non, moi je ne vais pas voir les guérisseurs, je ne vais pas voir les marabouts. Et puis d'autres, ils me disent oui, quand ça marche pas de ce côté-là, je vais voir un guérisseur. Quand ça marche pas chez le guérisseur, je retourne. Et c'était très, très intéressant. J'en ai pas parlé là aussi parce que voilà, j'ai centré sur certains aspects. Mais c'est vrai que ça, c'est vraiment aussi très intéressant de voir. Parce qu'il faut savoir que au Sénégal, l'infertilité, il y a plusieurs échelles. Alors, pour la religion, quand ils sont dans des représentations, quand ils sont croyants, et ils sont beaucoup croyants et beaucoup. Donc c'est Dieu qui décide quand est-ce qu'il va donner l'enfant, c'est pas forcément tout de suite après le mariage, ça peut être plus tard. Donc ils sont dans cette logique-là de Dieu va me donner l'enfant, j'attends, c'est Dieu qui décide. Et quand ils sont donc croyants, mais aussi ils croient dans ce que disent les guérisseurs, donc ils disent j'ai aussi un génie qui empêche un génie personnel, individuel, qui est jaloux et qui empêche que moi et mon mari, on ait un enfant parce qu'il m'aime et il veut pas que j'ai un enfant avec mon mari. Donc voilà. Et tout ça, ça se juxtapose. c'est,
ouais. Merci. Donc on va passer la parole à Yvon quand même pour avoir un aperçu global de ces communications. Et puis après, moi-même, je vous proposerai des petites réflexions, on repassera la parole à la salle. Ce serait bien qu'on ait quand même un quart d'heure, 20 minutes de discussion.
Je ne serai pas trop long, promis. Quand tu as donné un aperçu général, n'exagérons rien, Ophélie. je vais quand même essayer effectivement, puisque c'est mon rôle ici, de mettre les choses en perspective. D'abord, je remercie les organisateurs et organisatrices de m'avoir, il y a déjà fort longtemps, demandé de m'associer à ces journées qui sont vraiment très ambitieuses apparemment. Elles ont été heureusement surprises, mais un peu dépassées par le succès. Enfin bon, c'est plutôt de l'ordre de la bonne nouvelle. Et puis je voudrais également remercier publiquement Ophélie d'avoir eu l'amabilité de m'envoyer à l'avance ses propres commentaires, ce qui nous a permis de ne pas dire exactement les mêmes choses, et je pense que pour vous c'est donc plus agréable, et c'est grâce à elle et pas grâce à moi. Alors pour ce qui est des commentaires à proprement parler, un petit point d'abord sur le fait que nous avions donc aujourd'hui 3 communications au lieu de 4, mais qui émargent, si j'ose dire, à 3 disciplines différentes. Sciences politiques, anthropologie et littérature comparée. Ce qui est assez encourageant parce que ça veut dire que dans les différentes disciplines des sciences sociales et humaines, la dimension du genre est vraiment largement prise en compte. C'est pas univoque le genre, c'est pas unidisciplinaire. Et je trouve qu'il y a de quoi plutôt se réjouir, même si évidemment à titre personnel, je peux déplorer que dans ce panel, il n'y ait pas eu de communication en histoire. Mais enfin bon, je ne vais pas faire non plus de chasse gardée, c'est pas très grave. Alors j'insiste sur le fait, et je crois que ces 3 communications le montrent bien, que je rappelle, parce que c'est pas une conviction personnelle, c'est plutôt un consensus, mais qu'on a parfois tendance à oublier, le fait que le genre c'est une démarche et non pas un thème. C'est pas un thème d'étude, le genre. C'est une perspective, une démarche, un outil dont on se saisit. Et donc un outil de réflexion, un outil d'analyse. Ma collègue Violaine Sébillotte, avec qui j'organise un séminaire sur genre et histoire, parle souvent du fait de chausser ses lunettes de genre, c'est-à-dire quelque chose qui permet dans son kit, non pas d'intervention mais son outillage épistémologique, de voir des choses qu'on ne voit pas si on n'y pense pas, si on ne s'inscrit pas dans cette démarche. Alors, ayant dit ça, la question se pose quand même de savoir justement comment on se sert de cet outil, cette perspective de genre, cette démarche de genre, cet outil du genre, comment est-ce qu'on peut les décliner ? Avec un petit rappel épistémologique donc, et dans lequel je ferai ensuite, ou avec lequel je ferai la liaison avec les 3 communications d'aujourd'hui. Donc, du point de vue épistémologique, on constate, alors je suis historienne, donc j'ai sans doute un biais disciplinaire et je ne prétends pas être exhaustive. Mais quand même, il me semble qu'on peut faire une sorte de catégorisation, de déclinaison des perspectives de genre, de comment est-ce qu'on utilise cette notion. D'abord, je voudrais faire un rappel historique. Je crois qu'il n'est pas inutile de rappeler que historiquement, la notion de genre a été élaborée et promue par des féministes, et même par des féministes radicales, et que l'enjeu à ce moment-là, début des années 80, de cette notion, était de forger un outil critique de déconstruction de la féminité, et de critique des rapports sociaux de sexe, et notamment des rapports de pouvoir. Bon. Et la vocation donc de la notion de genre, et là je suis donc vraiment au début des années 80, était d'avoir un fort potentiel subversif. C'était pas juste un outil neutre, si je puis dire, d'analyse, pour autant qu'il puisse y avoir des outils neutres. Mais au moins, celui-ci avait pour lui l'avantage d'annoncer la couleur. Voilà. Et même si ce dernier, cet outil spécifique, a fait amplement débat aux États-Unis, hein, parmi les féministes, certains accusant d'autres justement n'être pas assez radical et d'utiliser même cette notion pour finalement désamorcer le potentiel subversif du mouvement féministe. Bon, ça c'est de la cuisine interne. Mais je crois que ce dont on se rend compte aujourd'hui, c'est un constat. D'une certaine façon, c'est aussi un regret, mais ça n'engage que moi. Mais je crois que ce qu'on constate aujourd'hui, après 30 ans à peu près d'existence de ce concept, c'est deux choses. Une qui est, à mon sens, positive, et l'autre qui l'est moins. Ce qui l'est moins, c'est qu'il a quand même été largement désinvesti de ce potentiel subversif. Il y a quand même quelque chose de très consensuel maintenant autour du genre. Bon. Ce qui par contre est une bonne nouvelle, c'est qu'il s'est considérablement développé et enrichi. C'est quand même un concept qui s'est enrichi, et ça c'est tant mieux. C'est-à-dire que justement il permet maintenant de se pencher sur les questions de sexualité, de masculinité, alors qu'à l'origine il a quand même été conçu plutôt pour penser et critiquer certes, mais seulement la féminité, hein. Et donc il s'est déployé, ce qui me paraît plutôt encourageant. Alors, quels sont les différents sens qu'on donne aujourd'hui ou qu'on donne depuis 30 ans hein, à cette notion? Comment est-ce que, du point de vue de la bibliographie finalement, on s'est saisi de cette perspective de genre? Alors, avec, j'ai distingué, je crois, cinq catégories. La première, c'est, et finalement, je pense que Marie Séger aurait beaucoup de choses à dire là-dessus, d'ailleurs vous l'avez évoqué, le fait que, parfois, le genre est synonyme de femme. Finalement, c'est une façon rapide, consensuelle et donc discutable, forcément, de parler des femmes. Et c'est notamment le cas dans tout ce qu'on appelle genre et développement, les ONG spécialistes du genre et les programmes internationaux. Et je crois que vous auriez beaucoup plus de choses que moi à dire là-dessus. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces organisations internationales, et ça c'est ce que vous montrez, ou ces ONG, finalement, en faisant du mot genre un synonyme de femme, peut-être peine à soutenir, à protéger et à émanciper les femmes, alors même que c'est leur raison d'être, en tout cas en principe. La deuxième déclinaison qui me semble possible du mot genre, c'est les rapports sociaux de sexe, c'est-à-dire les rapports de pouvoir entre hommes et femmes à un niveau collectif. Les féministes matérialistes diraient la classe des hommes et la classe des femmes, mais aussi à un niveau individuel qui peut être celui du couple, de la conjugalité, disons, ou à un niveau individuel, même de deux individus qui ne se reconnaissent pas, mais dans les rapports de travail, dans les rapports économiques, dans la rue, etc. La troisième déclinaison, c'est genre. Le genre permet d'étudier la sexualité ou les sexualités. Là, c'est une tendance assez récente, pour le coup, hein. Et qui est en plein développement. L'accent est mis sur les sexualités, ou l'accent est volontiers mis sur les sexualités, disons, déviantes ou hors normes. Sexualité vénale, homosexualité, etc. Mais aussi, et ça me semble tout à fait encourageant à nouveau, stimulant, sur l'hétérosexualité en tant que forme construite elle-même de la sexualité, qui du coup la soustrait à l'ordre du naturel. Quatrième déclinaison possible, et une fois, je répète que je ne prétends pas être exhaustive, j'ai essayé quand même de donner une vision un peu d'ensemble, mais j'ai sûrement oublié des choses. Le genre comme ensemble d'assignations faites aux hommes et aux femmes, qui fait que du coup, quand on utilise le genre dans cette perspective, on se place dans le registre des normes. Quelles sont les normes de la féminité, de la virilité? Sachant d'ailleurs que féminité comme virilité doivent en fait se décliner au pluriel plutôt qu'au singulier, en réalité. Et enfin, dernière déclinaison possible du genre, me semble-t-il, c'est genre et identité. Alors, c'est un peu proche de ce que je viens de dire, mais pas tout à fait. L'identité, c'est pas juste la norme, justement. C'est aussi, éventuellement, transcender les normes, transgresser les normes. Donc, la construction de ces identités, c'est-à-dire aussi les processus d'individuation, comment l'individu se construit comme un homme, comme une femme, et quel genre, si j'ose m'exprimer ainsi, d'homme ou de femme on devient. Alors, avec cette petite liste en tête, à quelle catégorie appartiennent ces trois communications, hein, de quel genre, de quel genre de genre relèvent-elles? La communication de Yelena Antic me paraît relever plutôt, alors c'est rarement complètement exclusif, hein, mais me paraît relever plutôt de l'approche du type rapports sociaux de sexe. En effet, l'intervenante insistait surtout sur le corps comme instrument de subversion des codes sociaux et de subversion aussi de la domination masculine, hein, de la forme algérienne, disons, du patriarcat. Et donc la danse y apparaît dans sa dimension politique, celle d'une révolte qui est affichée certes individuellement, mais aussi publiquement. Et secondairement quand même, il me semble que vous invoquiez aussi, que vous convoquiez plutôt la question de l'identité. L'identité d'Isma, l'identité du personnage principal. J'ose pas dire l'héroïne parce que je suis pas sûre que le terme d'héroïne convienne parfaitement, mais je suis pas spécialiste de littérature. Son identité, c'est-à-dire quel type de femme est-elle et qu'est-ce qui la distingue des autres femmes, hein. Et justement là, l'idée des classes d'âge, de la matrone, voilà, me semble faire que votre communication convoque cette acception-là du genre. La communication de Marie Séger sur les programmes internationaux au Burundi se rapporte davantage, et ça n'est pas très surprenant, et vous l'avez dit vous-même en réalité, même si vous êtes critique par rapport à ça, à l'acception genre égale femme, et finalement, et vous pourriez sûrement développer. Cependant, et précisément parce que vous êtes vous-même critique par rapport à ça, vous avez bien montré la dimension politique des mobilisations de femmes et les conséquences paradoxales de la présence des organisations internationales. Je dis les organisations, en fait, c'en est une, mais des organisations internationales sur place, puisque d'une certaine façon, elles ne contribuent pas vraiment à faire avancer la cause des femmes ou les causes des femmes, dans un contexte par ailleurs que vous avez montré suffisamment tendu pour qu'on se méfie de tout changement un peu radical qui risquerait de remettre le pays au bord de la guerre civile, etc. Or, l'accès, par exemple, de l'accès à la propriété foncière pour les femmes, ça paraît être une question radicale, et donc, si j'ai bien compris, personne n'ose s'y atteler très sérieusement. Enfin, la troisième communication sur l'infertilité et l'AMP au Sénégal me semble relever à la fois des études de la sexualité et des rapports sociaux de sexe, hein, à nouveau deux façons de mobiliser le genre. Marie Brochard se demande en quoi le recours à la technique de l'AMP est susceptible de modifier les normes de genre et conclut, à l'inverse de sa problématique finalement, que ça ne fait plutôt que renforcer les normes de genre, hein, si je vous ai bien lu. Je dirais que ça n'est pas contre-intuitif, dans le sens où, comme la reproduction humaine est vraiment duale biologiquement, en général, ce qui entoure la reproduction humaine a tendance à renforcer les normes de genre plutôt qu'à les défier. Mais bon, donc au point que je me demandais si votre hypothèse ne gagnerait pas à être posée un petit peu autrement, et si vous ne pourriez pas vous poser plutôt la question de comment et pourquoi le recours à l'AMP renforce les normes de genre. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous arriveriez à la même conclusion, mais avec un cheminement un petit peu différent. Voilà, peut-être que cela vous a frappé comme moi, mais vous voyez que beaucoup de recherches sur le genre, à un moment ou à un autre, se saisissent de la question du corps, des corps. Et on en a parlé ce matin également, le corps du leader, etc., dans cette même salle. Le corps devient donc un thème central des recherches en sciences humaines et sociales. C'est le cas ici de deux communications sur trois. Ce qui est, stimulant aussi, parce que là encore, on se rend compte que le corps n'est pas juste un ensemble constitué biologiquement, mais aussi un matériau social, travaillé par le social constamment. Voilà, j'ai une ou deux questions à poser aussi à Marie Brochard, mais comme je peux les lui poser peut-être après, que je ne veux pas que nous passions tout notre temps à discuter entre personnes de la table, mais aussi avec le public, je passe la parole à Ophélie et vous pourrez intervenir.
D'accord. Donc, je vais essayer de faire vite, d'autant que beaucoup de questions ont déjà été posées, beaucoup de commentaires ont été faits.
Et peut-être, en fait, je ne suis pas présentée, moi je suis doctorante en histoire au CNAF et je prépare une thèse sur le genre dans les luttes sociales et politiques au Mali à l'époque contemporaine. Voilà, donc mes remarques sont aussi très orientées forcément par mon objet de recherche et peut-être que vous, ça ne vous semblera pas pertinent par rapport à vos propres disciplines ou interrogations. Donc vous ne sentez surtout pas obligé de répondre à mes questions. Donc voilà, comme le faisait remarquer Anne, ce qui apparaît clairement dans ces communications, c'est que le genre est un outil d'analyse qui permet d'analyser donc, la sexualité, le corps, les programmes internationaux sous l'angle des rapports de pouvoir, des mécanismes de domination, voilà, ça m'intéresse. Vous avez aussi évoqué de façon plus marginale les catégories de classe au Sénégal, de génération en Algérie, les différences régionales, confessionnelles, etc. Et je me demandais si dans vos travaux, en fait, ces catégories ne mériteraient pas d'être plus prises en compte, davantage articulées au genre, pour peut-être affiner, rendre moins homogènes des descriptions, notamment tout ce qui porte sur les relations conjugales, familiales au Sénégal, qui sont forcément très complexes, qui varient énormément, mais aussi sur les regroupements féminins au Burundi. Alors c'est dommage, j'ai l'impression que vous ne l'avez pas évoqué, l'association des femmes juristes, là, à l'oral, mais vous en avez parlé dans votre communication écrite, et ça me semble être une association très intéressante, qui justement, c'est une association d'élites urbaines politisées, radicales. Donc quelle conflictualité avec les autres organisations féminines ? Y a-t-il des organisations féminines qu'on pourrait qualifier de courtiers en développement ? C'est une notion qu'on retrouve régulièrement dans ce type de travaux. Qu'en est-il des veuves ? Y a-t-il des associations de veuves, et notamment pour cette, par rapport au foncier, qui en effet est une question fondamentale ? On est dans une période post-conflit, donc est-ce qu'on a des veuves qui s'organisent ? Quel est leur droit par rapport au foncier ? Est-ce qu'il y a une marge de manœuvre pour elles ? Face à une législation qui n'accorde pas le droit de propriété aux femmes. Et pour l'Algérie, toujours dans cette question des catégories d'analyse, vous avez parlé donc d'une danse pratiquée entre femmes, et ça m'a semblé très intéressant, ces questions générationnelles et ces rivalités entre femmes. Enfin, vraiment, est-ce que vous utilisez par exemple les questions aînés-cadets, toute cette littérature entre les aînés, les rapports aînés-cadets au travers de la danse en Algérie, je ne sais pas, c'est voilà, des idées qui me sont venues. Dans vos communications, Yélène Antique et Marie Brochard, apparaît clairement, me semble-t-il, une rupture temporelle. Alors, c'est peut-être pas temporelle, mais il y a une rupture. Il y a un avant, le temps de la danse traditionnelle, le temps de la famille traditionnelle, comme vous les appelez, et un après où les normes de genre peuvent être bouleversées, dans le cadre de la danse, oui, dans le cadre de l'avancée médicale, non, pas forcément. Et je me demandais s'il ne fallait pas peut-être nuancer un peu ce avant-après, enfin, cette notion de tradition, de nouveauté, modernité, c'est toujours un peu compliqué. Et dans le cas burundais, au contraire, on voit justement que c'est des évolutions très complexes, que les programmes internationaux ne viennent pas bouleverser les normes de genre, loin de là. Mais du coup, je n'y connais absolument rien à l'histoire du Burundi. Et j'aurais voulu avoir un peu plus d'informations sur quelle était la place des femmes, des organisations féminines, en fait, avant le conflit, en quoi le conflit a impacté, en fait, sur ces organisations féminines. Et ça m'a fait penser au Rwanda, où aujourd'hui on dit que la place des femmes en politique au Rwanda est très importante suite au génocide. Donc est-ce qu'on retrouve ce même processus au Burundi ou pas ? Voilà. Et donc on le voit, la dimension politique des questions de genre est centrale dans vos communications, notamment au Sénégal et au Burundi. Pour le Sénégal, donc vous avez précisé qu'il n'y avait pas de cadre juridique de l'AMP, mais vous parlez de la conformité aux règles religieuses. Alors je me demandais à quoi vous faisiez référence. Est-ce que par exemple des imams ont pris position sur ces questions-là, sur l'AMP ? C'est juste pour avoir des précisions. Et au sujet de l'Algérie, alors j'ai l'impression que ça, c'est pas dans votre questionnement, mais moi ça m'intéresse. Je me demandais si on pouvait lire les romans d'Assia Djebbar au regard du contexte politique algérien des années 80-90, au moment de publication de ces romans, parce que ça correspond au code du mariage algérien en 84, aux violences sexuelles commises sur les femmes pendant la période de guerre civile des années 90. Il me semble que cet auteur a un rôle politique, c'est une femme
voilà, qui a eu un engagement politique important. Donc, en quoi son parcours biographique peut aussi éclairer son œuvre? Est-ce que vous utilisez ça dans votre travail de thèse, pas pour cette communication, mais dans votre travail de thèse, sinon? Et je vais finir donc mes commentaires sur une approche plus méthodologique. Donc, on voit que sur la sexualité, en fait, vous abordez des questions stigmatisées, taboues, difficiles à appréhender. Les entretiens ont l'air difficiles à effectuer au Sénégal sur ces questions-là. Donc, peut-être, est-ce que vous avez cherché à les voir dans les matériaux littéraires, cinématographiques, musicaux? Parce qu'on peut le voir avec Yelena Antic, c'est ce qu'elle nous montre, que finalement, c'est très, très riche. Et la communication qui devait avoir lieu sur l'homosexualité, là, finit ça aussi en allant plonger dans ces matériaux cinématographiques et littéraires qui permettent parfois de contourner des barrières, des silences, des barrières qu'on rencontre sur le terrain. À l'inverse, je me demandais si vous, Yelena Antic, vous n'avez, si j'ai bien compris, pas fait de terrain en Algérie. Voilà, donc pas observé de danse féminine et masculine. Donc, est-ce que dans vos recherches futures, ça pourrait être envisagé un croisement littéraire-anthropologie pour approfondir ces questions-là? Et enfin, donc, vous, Marie Saget, vous avez abordé, alors moins à l'oral qu'à l'écrit, les questions, les difficultés méthodologiques. Voilà, vous avez évoqué à l'écrit les malentendus liés à votre double casquette de chercheuse et de praticienne. J'ai l'impression que c'est le cas pour nombre de chercheurs travaillant sur des situations post-conflit, de violence. Et donc, du coup, je me demandais si les institutions internationales sont forcément des portes d'entrée obligatoires quand on travaille sur ce type de terrain. Ou est-ce d'une manière plus triviale une opportunité pour financer ses recherches quand on est doctorant? Peut-être. Du coup, quels sont les malentendus rencontrés? Est-ce que vous êtes l'objet d'une captation? Enfin, comment vous en sortez finalement avec tout ça? Et quel est aussi l'impact sur vos questionnements et sur le vocabulaire que vous employez? Notamment, je ne sais pas, regroupement féminin, ça fait partie du vocabulaire international ou du vocabulaire de la recherche? Comme la notion de société civile qui est très polémique que vous employez. Voilà, donc forcément des notions à interroger et comment vous vous positionnez par rapport à ça. Voilà, donc oui.
Alors, juste sur la façon de procéder, je crois que si toutes les interventions.
Non, je pense qu'il faut laisser la parole
à la salle. À ce foisonnement de questions qui sont vraiment très stimulantes, je pense. Hein. Enfin, mais peut-être que tu les entendais plus, Ophélie, comme des pistes de réflexion à suivre que comme des questions auxquelles tu souhaitais avoir une réponse dans les 10 minutes qui suivent. Donc, on va laisser la parole à la salle pour d'autres interventions alors plutôt réflexives, effectivement, mais ça peut prendre la forme d'une question.
Oui. J'ai une question pour Marie. Et ton terrain, tu le sens assez rapidement par rapport à la révolution au Sénégal, par rapport à la société sénégalaise,
c'est-à-dire parce que les
nouvelles le fait que te semble assez général pour dire je suis en train de parler de ce qu'on ressent dans la société sénégalaise.
En fait, ce qui m'a permis aussi d'arriver à des grandes généralités, bon, la biblio, on va dire, mais aussi comme je l'ai dit au début, j'ai rencontré des chercheurs spécialisé en anthropologie de la santé, c'était plus pour l'infertilité, mais aussi l'infertilité peut s'aborder par le biais aussi de la famille, la conjugalité. Donc j'ai rencontré aussi des sociologues sur la famille, la conjugalité, qui eux ont répondu vraiment à mes questions. Ils travaillent vraiment sur ce sujet-là, c'est leur sujet d'étude et ils sont souvent aussi sénégalais. Donc, et puis dans les entretiens aussi, j'ai pu recouper mes informations et comprendre comment fonctionnait un peu la reproduction générale au Sénégal. Et puis bon, je l'ai travaillé dans la nouvelle technologie de reproduction, mais aussi dans la reproduction plus classique, mais toujours par le biais de l'infertilité, puisque j'ai aussi interrogé des hommes, donc là, n'ayant pas recours à l'assistance médicale à la procréation, mais venant consulter pour infertilité dans les hôpitaux. Donc là, j'ai pu aussi...
Et tu trouves que le facteur religieux déterminant, par exemple la religion musulmane?
Pour rejoindre la question aussi tout à l'heure, donc moi il faut savoir que la religion musulmane c'est très large, il y a un contexte local, mais moi il faut savoir qu'au niveau littérature, ce qui va être dit, c'est il y a plus eu des études menées par exemple sur le Moyen-Orient, Des chercheurs ont travaillé sur qu'est-ce que dit la religion musulmane sunnite-chiite et que sur ce sujet-là, assistance médicale à la procréation, mais il n'y a pas d'écrit sur au Sénégal. Déjà, c'est assez récent. Et puis, il y a très peu de littérature sur l'assistance médicale à la procréation au Sénégal. Très, très peu. C'est minime, quoi. À la limite, c'est des spécialistes, c'est des gynécologues et tout. Moi, je suis allée plutôt me référer à cette littérature, notamment Marty Einhorn et d'autres qui ont mené des enquêtes approfondies et qui ont travaillé sur la religion musulmane, les positionnements, qu'est-ce qu'ils disent. Donc, il y a une différence entre les sunnites, les chiites, c'est pas le même positionnement. Les sunnites, c'est plus. C'est-à-dire, les sunnites, c'est vraiment. On autorise l'AMP, mais dans le cadre du couple, point à la ligne. Les chiites, c'est plus large, c'est-à-dire, ils autorisent. Ce qui s'appelle des mariages temporaires. Le mari peut épouser une seconde épouse temporairement, donc c'est vraiment un mariage très contractuel. Le temps qu'il y ait ce don d'ovocytes, par exemple. Donc ça marche dans le cas du don d'ovocytes, donc là c'est autorisé. Beaucoup plus restrictif pour le don de sperme. Là il y a une possibilité du don qui n'est pas possible pour la religion. L'islam musulman sunnite. Et au Sénégal, c'est plus ça qui est recommandé. En tout cas, toutes les personnes que j'ai pu interroger m'ont toujours dit, j'ai demandé à mon marabout, il m'a dit, c'est autorisé dans le cadre conjugal, mais interdiction du don, quoi. D'ailleurs, apparemment, il y a des couples quand même sénégalais, donc j'ai pas pu les interroger, parce que là, encore plus tabou du tabou, j'ai pas pu les interroger, mais il y en a qui ont recours au don. Alors, à l'étranger, ça c'est sûr, c'est-à-dire qu'ils vont faire ça à l'étranger. Au Sénégal, ce que je disais au début, peut-être, mais pas vérifié. Ils vont pas le dire, quoi, parce que c'est vraiment. Donc c'est pour ça que je pense que c'est plutôt un islam sunnite, et dans ce cadre, autorisation de l'AMP, mais dans le cadre conjugal, point. Au Sénégal, c'est comme ça. Voilà. Et s'il y en a qui ont recours au don, et ben ils vont certainement pas aller consulter leur marabout pour leur demander.
Une question. Allez-y.
Une question à Marie également. Tu évoquais en réponse tout à l'heure les différents parcours thérapeutiques qui sont courants que cette personne pourra l'aider. Est-ce que tu as pu les analyser comme une analyse comparative avec cet outil pour savoir quelle était la spécificité, ou est-ce qu'il y a une reconstruction des relations hommes-femmes spécifiques dans ce recours aux AMP par rapport aux autres cultures thérapeutiques? Est-ce que tu l'as juste évoqué ou est-ce que tu as étudié un petit peu
C'est-à-dire, tu veux dire chez les guérisseurs, quand les couples vont voir un guérisseur?
Voilà, est-ce que ça met en jeu des relations hommes-femmes différentes? Est-ce que tu étudies des relations hommes-femmes dans ces autres parcours-là?
Un petit peu par le biais des entretiens. Après, ce qui est intéressant de voir, c'est que guérisseurs et marabouts, c'est souvent. Déjà, c'est les femmes souvent qui font toutes les démarches. Il faut savoir que c'est elles qui vont s'activer entre guillemets en premier, parce que quand elles voient qu'elles ne tombent pas enceintes, il faut agir, quoi. Alors que l'homme peut mettre plus de temps, ça peut mettre beaucoup plus de temps à ce qu'il se décide à. Donc c'est la femme peut y aller, elle va y aller seule, elle peut y aller avec une sœur, une mère, et même des fois c'est la belle-mère qui va emmener sa belle-fille voir un guérisseur. Les familles aussi vont dire, la mère va amener à sa fille des traitements, dire voilà je suis allée voir tel guérisseur, prends ça. Donc les familles s'immiscent beaucoup là dans les parcours de soins des couples au niveau guérisseur, surtout guérisseur marabout. Au niveau AMP, non, là c'est les couples vraiment qui prennent en charge, et là les familles sont pas du tout, souvent sont pas au courant, et si elles sont au courant, là elles vont pas du tout intervenir. Mais dans le plan plus guérisseur marabout, là les familles interviennent beaucoup. Donc les couples, je pense que les couples ils vont très peu ensemble voir le guérisseur. C'est plus la femme qui va y aller seule ou l'homme va y aller seul, mais pas en couple, quoi. Ils vont pas en consultation de couple. Alors que l'assistance médicale à la procréation, au moins une ou deux fois ils vont être obligé d'y aller en couple, enfin, l'homme va être obligé de venir parce que la femme va tout le temps, quoi. Donc, c'est un peu différent, j'ai vraiment pu l'aborder que par le biais des entretiens, parce que je vous avouerai que assister à une consultation, que ce soit n'importe laquelle, alors là, ça relève du... Je ne sais pas comment j'aurais pu y arriver. Enfin, déjà, accéder à des entretiens, ça a été difficile. Alors, accéder à une consultation, déjà, il y a le secret médical pour ce qui est biomédical, mais bon, ça peut, enfin, des fois, c'est possible dans certaines conditions, mais là, c'était pas possible. C'est pas possible. Les gynécologues, il faut savoir que les deux gynécologues du privé, ils ont eu quand même du temps à me donner leurs contacts, et puis j'en ai eu très peu, quoi.
Mais une question là, j'ai bien vu qu'il y en avait une au fond aussi.
Moi, je souhaitais juste rebondir sur ce qui a été dit en fait sur la littérature, parce que ce que tu disais en fait sur l'impuissance et l'infertilité, là, ça me faisait penser à l'œuvre de Rala de Ousmane Sembène, où justement il dit impuissance et pouvoir. Et durant cette période, il y a aussi un article de Schenkel dans Psychopathologie africaine sur les impuissants acculturés du Sénégal. Et c'est assez intéressant parce que justement, c'est aussi un discours qui est construit également occidental de lier, je ne sais pas, la fertilité, l'Africain qui veut se reproduire et la femme africaine qui veut avoir des enfants. Donc c'est aussi quelque chose qui est également construit par les anthropologues ou les psychanalystes. Donc du coup, je voulais...
Quelle matière ? Je ne connais pas.
C'est en ethnopsychiatrie, en fait. C'est une revue l'école de Fale, et qui était créée par Coulignon. J'ai la référence.
Non, sur l'infertilité, il y a quand même de la littérature, mais pas sur la science médicale à la procréation. Il y en a, mais moi je me suis concentrée plutôt sur la littérature vraiment anthropologique, sociologique à la limite, et psychologique peut-être. Et j'ai pas, l'autre, je sais pas si c'est quelque chose de littéraire, le premier.
C'est de Sembène,
c'est un film. Ouais, non, ça c'est vrai que pour rejoindre ta question, j'ai pas. Si ça s'était présenté, je l'aurais visionné, mais j'ai pas force. Enfin, je suis pas allée chercher du côté cinématographique ou même littéraire, parce que je pense qu'il y a des romans qui traitent de ce sujet-là.
Emmanuel,
J'avais deux questions pour les deux maris. Je commence par un petit livre pour Marie-Célie, je voulais savoir sur la même manière qu'Anne-Vou a présenté différents modèles de genre, dans quelle mesure tu as préféré différentes assignations, différents référentiels à des figures féminines, c'est-à-dire qu'on peut avoir à la fois une femme qui va être la pacificatrice, enfin qui a une figure comme ça, de résolution de conflit, ou une autre figure maternelle. J'utilise aussi bien aussi par les discours nationalistes de la patrie, une autre figure, je sais pas, développementaliste. Comment dans ces programmes post-conflit, quelles sont éventuellement des assignations identitaires, genrées, et des injonctions contradictoires en fait. Et comment ces figures sont mobilisées et dans un même programme, on peut avoir des choses parfois, certes, qui renvoient aux femmes au genre, mais.
Si la question est très intéressante, assez complète, donc peut-être que ça mènera à une réflexion. Mais sur les programmes, effectivement, il y a plusieurs figures. Donc ça a concerné vraiment tout l'état de l'art de ma première année de thèse, et qu'il y a la figure de la femme victime de violences sexuelles, de violences faites aux femmes. Il y a la figure de la femme... agent de paix, donc ça c'est très important dans les programmes. On a cette idée que les femmes sont essentiellement ou socialement en faveur de la paix, donc vont construire la paix. Donc que ce soit dans les discours féministes essentialistes, si on peut dire, ou les discours féministes plus radicaux, donc il y a toujours cette idée de la femme comme agent de paix. Et il y a l'idée aussi de la femme ordinaire qui se débrouille, qui va mener des petits projets au niveau économique, etc. Donc la figure de la femme débrouillarde, si on peut dire. Donc c'est toujours des figures très positives en fait, qui ne révèlent absolument pas les divisions très importantes qui existent et dont j'ai tenté un peu de montrer au niveau de ces catégories de femmes. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est comment ces femmes vont investir en fait ces figures d'elles-mêmes, construites par les programmes internationaux, mais également remobilisées et construites au niveau local. Voilà, les femmes qui se sont investies dans les mobilisations de paix, elles ont fortement joué sur cette figure de la femme pacificatrice, quand bien même il y avait aussi des enjeux ethniques, politiques très importants qui motivaient leur mobilisation.
J'enchaîne sur ma deuxième question pour Marie Rochard. J'ai pas été surprise, mais je suis toujours frappée d'importance de la maternité dans la construction des figures féminines. Simplement, dans la mesure où tu travailles sur une catégorie sociale quand même très aisée et assez peu représentative et du Sénégal, et en plus vivant dans la capitale sur un modèle qui a l'air plutôt monogame, je me demandais comment d'autres formes de maternité et d'autres modèles familiaux sont peut-être mis en cause par l'aide médicale à la procréation. Concrètement, des pratiques comme le confiage ou une femme qui était infertile ou qui n'avait pas d'enfant, une sœur ou une belle-sœur donner son enfant une fois sevré à Haïti et puis devenir la mère sociale plus ou moins cachée, je pense, c'est assez dit dans les familles. Comment finalement un modèle la conjugale et le recours à une pratique médicale assistée rend peut-être désuet certaines autres pratiques sociales. Je ne sais pas si c'est des choses dont tu as pu entendre parler. C'est-à-dire que il y a la fertilité, la question biologique, et puis tu en parles du point de vue de la maternité, l'enjeu social, mais ça implique aussi d'autres réaménagements familiaux.
Bah, le confiage, apparemment, beaucoup moins pratiqué à Dakar. Et puis, ce qu'on a pu m'en dire, c'est qu'il se pratiquait beaucoup avant et beaucoup moins maintenant. Ça se pratique de moins en moins. Et en tout cas, à Dakar, on n'en a pas parlé. Et puis, j'ai lu un petit peu aussi sur
Alors, peut-être dans ces milieux-là où il y a déjà une idée. Les couples ne vivent plus dans la maison familiale.
Parce que effectivement, les coups que j'ai pu voir ayant recours à l'assistance médicale à la procréation, là on est d'accord. Comme je l'ai dit, j'ai vu aussi à l'hôpital public, donc là c'est pas des milieux, c'est des milieux pauvres ou couches moyennes plutôt basses. Et donc là, un autre système, et là c'est pas vraiment le couple qui vit chez lui, non. Là, c'est le couple qui vit dans la belle famille, ou la femme qui vit chez sa belle famille, mais l'homme ne vit pas là, il vit en Europe, il travaille en Europe, il revient tous les deux ans. Donc là, la femme vit carrément chez sa belle famille. Donc là, c'est une autre forme de conjugalité. C'est pas du tout la même que le couple vit dans sa maison tout seul. Quoi. J'ai été confrontée à ces autres formes de conjugalité, il y a moins d'intimité, beaucoup moins d'intimité dans les couples, et là les familles prennent carrément part aux décisions conjugales. Quoi. Enfin, des fois la femme peut vivre au village et l'homme il vit à Dakar et il travaille à Dakar et il se voit tous les 6 mois. C'est sûr aussi que là ça rejoint aussi les questions de l'infertilité, parce que des fois l'infertilité, c'est aussi le fait que le mari il voit pas souvent sa femme, quand il la voit tous les 2 ans, c'est sûr que ça favorise pas une grossesse. Et des fois c'est vraiment ça, quoi. Même les gynécologues le disent, des fois le problème c'est que le mari n'est pas là, quoi. Il est pas là, il rentre tous les 2 ans, et en attendant la femme vit avec ses beaux parents, et ce qu'elle vit c'est dur, quoi, parce que les beaux parents lui mettent la pression. Si elle a des coépouses et que celles-ci ont des enfants, elle est vraiment en minorité, puis elle se fait bien marcher sur les pieds, quoi. Enfin, c'est mal vu, quoi. Et l'autre question, je sais pas si elle...
Bon, alors, je suis désolée, mais on va devoir lever la séance si jamais on veut faire une petite pause café avant de reprendre sur le nouveau panel.
923.
Qu'est-ce que tu as annoncé ?
923.
Ah, la pause café, d'accord.
Le lieu de la pause café.
Très bien. Donc, mais bien sûr, on peut continuer à discuter dans les couloirs. Et,
merci
à tout moment. Merci beaucoup. Et merci aux intervenantes et aux communications.
Bah, merci Gara Marc.
Bah, de rien.
Ça va être toujours un peu fréquent, mais j'ai envie de discuter davantage.
Est-ce que c'est toujours à voir être là pour le panel suivant et écouter un minute?
Moi, je pense. Ah non, je vais aller en.
Pourquoi? Non, mais parce que je peux leur donner un mail, mais je voudrais lui donner l'attention de vous. Ah, oui, mais je ne sais pas si c'est une communication.
T'appuies sur OK. Celui-là, je vais peut-être les récupérer parce que je dois être enregistrée ensuite.
Alors celui-ci, celui-ci, il a été prêté. Enfin, il est à ici, quoi. Mais celui-ci, ça.